qu'a fait Brigitte Macron ces 30 dernières années où il n'y a aucune information sur sa vie? Qui est Jean-Jacques Trogneux, le supposé neveu de Brigitte Macron, qui ressemble fortement à Emmanuel Macron? À quel âge les Macron se sont rencontrés et ont peut-être consommé? Xavier Poussard, directeur de la publication de faits et documents, va nous dévoiler ses nouvelles conclusions sur le sujet le plus polémique de France et peut-être de monde même. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous voyez, je suis là, on est en direct, 18h32, mardi 2 avril. Je suis présent, je ne suis pas tombé du balcon, je n'ai pas encore été renversé par une voiture, je ne suis pas pendu, je suis là et je ne suis pas suicidaire. Je vous le dis à tous, voilà. Ce soir, c'est la grande émission, l'émission révélation, l'émission où on se dit tout sur l'affaire qui secoue la tête de l'État. Et on reçoit en direct notre ami Xavier Poussard, directeur de la publication qui est ici présent. Salut mon Xavier, comment vas-tu?
Bonjour à tous. C'est la rumeur qui inquiète l'Élysée.
Comme le dit Marianne.
Marianne, voilà. Donc si tu veux, on est au cœur du réacteur de l'actualité.
Déjà 8200 personnes. Allez, objectif. objectif 15000 personnes en même temps. Il faut que cette vidéo soit vue de tous. Il faut que cette vidéo-là, cet entretien-là, sorte du cadre Internet et aille dans le mainstream. On veut ça. Je sais qu'on va y arriver. Voilà, c'est l'objectif. On est là pour apporter de l'information. Et donc, du coup, on va passer un peu de temps avec Xavier sur ces informations. Vous les attendez tous. Mais avant ça, un petit générique et on va commencer l'interview. Allez, générique.
On a fait de la route grâce à vous. Merci. On va continuer. Ensemble, on va lutter contre le pouvoir profond. Comment ? Grâce à vos dons et notre travail. Au-delà de la réinformation, c'est notre engagement. Rendez-vous sous la vidéo pour nous soutenir.
Voilà, soutenez Géopolitique Profonde pour que l'on puisse à chaque fois faire des émissions comme celle-ci. Merci cher Gary et merci à tous. Voilà, donc Xavier, d'abord, première chose, moi, j'ai été pas mal attaqué ces trois dernières semaines. Voilà, visiblement, on voulait pas, certains ne voulaient pas que cette émission se fasse. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Est-ce que t'es à peu près safe, on va dire?
À ce niveau-là, moi, je pense que le gros de la répression sur ce dossier est passé, c'est-à-dire la phase, 2021-2022. Où là, il y avait un énorme blocage et une énorme répression. Et aujourd'hui, on est quasiment dans une phase d'officialisation qui a été engagée, le 15 février dernier, quand on a publié notre conclusion du mystère Brigitte Macron. D'ailleurs, j'avais fait une comparaison avec l'affaire Strauss-Kahn quand je travaille avec Zoé Sagan, et la première fois qu'on a vraiment relancé l'affaire en décembre, j'avais fait une comparaison et je lui avais dit, en comparant à Strauss-Kahn, je disais avec Natacha Ray, c'était le Sofitel, là ça va être c'est le Carlton, c'est-à-dire que l'effet de surprise est passé, la rumeur, comme on dit, s'est installée. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau médiatique, on est passé de la fake news transphobe à la rumeur Jean-Michel Trogneux. Aujourd'hui, la rumeur qui inquiète l'Élysée, on n'entend plus tellement parler de fake news, à part en couverture du livre d'Emmanuel Anison, mais on en reparlera.
On va en parler.
Et Jean-Jacques Bourdin a parlé d'insinuation. Enfin, on voit bien qu'on est en cours d'officialisation de part aussi des signaux envoyés par le pouvoir et qui sont de plus en plus clairs.
Bon, moi, tu le sais bien, j'ai pas mal été attaqué sur Twitter. Des gens font des montages, bon, bah qu'ils les fassent. Hein. De toute façon, c'est pas grave, l'émission se fera quand même, qu'ils le sachent, la vérité sera dite quand même. Ensuite, bon, je voulais quand même faire un petit coucou à notre amie Natacha Ray. Bon, je la salue, j'espère qu'elle nous regarde. Voilà, je la salue et j'espère très sincèrement qu'elle se porte bien. Bon, dernièrement...
J'en profite pour la saluer également. Et si je dois lui passer un message, parce que je sais qu'elle est extrêmement sensible et que des fois, ce qu'elle perçoit comme des attaques le sont pas tant que ça, mais il faut surtout qu'elle comprenne qu'elle est en train de gagner, que cette bataille-là qu'elle a engagée, elle est en train de la gagner, et qu'on est en ce moment plusieurs à aller effectivement au bout de cette affaire, et donc qu'elle prenne bien soin de sa santé.
Bien sûr.
Et on la salue.
C'est aussi sa victoire, et ça, faut quand même aussi le souligner. Bon. Là, on va passer sur le livre de Madame Emmanuelle Anison. Emmanuelle Anison, qui est grand reporter au Nouvel Obs, a écrit ce livre, voilà, que vous voyez, l'affaire Madame. En gros, elle explique que ben, cette affaire Jean-Michel Trogneux est une fake news. Dis-moi, cher Xavier, Emmanuelle Anison écrit qu'elle s'est infiltrée dans le milieu complotiste. Qu'est-ce que t'en penses et comment tu juges son travail aussi, ce livre ?
Alors, c'est un livre un peu bizarre, et c'est un livre qui, contrairement aux apparences, n'arrange pas l'Élysée. D'ailleurs, à la suite de la publication du dernier numéro du mystère Brigitte Macron, où pour la première fois, on passait clairement à l'affirmatif, c'est-à-dire le personnage Brigitte, entre guillemets, aînée, homme, Jean-Michel Trogneux, le 11 février 1945, Brigitte Trogneux et sa sœur, et cet homme Jean-Michel Trogneux vit avec l'identité civile de sa sœur. Donc on donne raison à Natacha Ray, c'est-à-dire qu'on dit Natacha Ray a été poursuivie après avoir affirmé ça. D'ailleurs, elle n'a jamais été poursuivie pour avoir affirmé ça. On va expliquer ce pourquoi elle est poursuivie. Et on a eu une phase de calme plat de 15 jours après la publication de ce numéro, avec bon, une certaine agitation sur les réseaux sociaux, mais au niveau des grands médias, du calme plat, et une première réponse qui est venue de Tiphaine Ozière dans Paris Match, avec cette couverture de Paris Match, quand j'entends ce qu'on dit sur ma mère. Donc, ce qui était un peu étrange, avec un article vraiment bizarre, mais qui a créé une forme, encore une fois, d'effet présente, c'est-à-dire une reprise à l'international, avec tout de suite un article du Daily Mail qui s'est appuyé sur Tiphaine Ozière en disant que c'était elle qui relançait la rumeur, avec le Daily Mail qui s'intéresse aux procédures et qui découvre effectivement que Natacha Ray n'a jamais été condamnée pour avoir dit que Brigitte était un homme. Et que ce pourquoi elle a condamné est un pan vraiment périphérique du dossier. Ensuite, la médiatisation s'accélère avec la sortie d'Emmanuel Macron le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme, où il va parler de scénarios montés avec des personnes qui finissent par y croire et qui vous bousculent dans votre intimité. Or là, en vérité, Emmanuel Macron parle d'Emmanuel Anison. En fait, je pense qu'à ce moment-là, l'Élysée a pris connaissance du livre d'Emmanuel Anison et s'est inquiété parce que c'est un livre qui, en vérité, quand on le lit au-delà des apparences et de la promotion, est extrêmement dérangeant pour le pouvoir. Parce qu'en vérité, Emmanuel Anison valide beaucoup de choses. Alors, on reviendra sur le livre d'Emmanuel Anison, mais la séquence se poursuit. Donc là, Emmanuel Macron, en ayant parlé, effectivement, ça devient un buzz international avec des reprises absolument partout. Le Daily Mail qui commence à feuilletonner avec un article quasiment tous les deux jours. Et là, pour la première fois, on franchit l'Atlantique avec le New York Post. Et là, se met en place au niveau français un changement de communication. C'est-à-dire qu'en fait, on met plus du tout la focale sur Natacha Ray, alors que jusque-là, l'Élysée avait poursuivi Natacha Ray de façon à ce que l'affaire reste cantonnée à Natacha Ray, mais la communication dans les grands médias, c'est-à-dire et qui sont des relais de l'Élysée identifiés, c'est-à-dire BFM TV et TPMP, va angler sur, en fait, ces faits et documents, qui a manipulé Natacha Ray, et derrière faits et documents, c'est le GUD, qui est un syndicat étudiant d'extrême droite, qui lui-même est relayé par des fermatrolles russes sur les réseaux sociaux, en expliquant que l'affaire Jean-Michel Trogneux, finalement, c'est comme les punaises de lit. Alors, c'est tout ça est absolument n'importe quoi, puisqu'effectivement, j'ai jamais appartenu au GUD, qu'en ce moment, le GUD est plutôt pro-ukrainien, donc on voit pas pourquoi il serait relayé par des fermatrolles russes. J'ai déjà expliqué que l'affaire Jean-Michel Trogneux n'était pas sur les rapports Viginum, qui sont un organisme gouvernemental qui lutte contre l'influence et la désinformation venue de l'étranger sur Internet. Donc tout ça est absolument faux. Et alors que le pouvoir commence à répliquer en disant « Natacha Ray, finalement, c'est pas grand-chose, elle a été manipulée, finalement, c'est le GUD avec les fermatrolles russes », arrive à ce moment-là la vidéo de Candace Owen. Et là, effectivement, l'affaire prend une ampleur complètement internationale puisque Candace Owen, il faut comprendre qui est Candace Owen. Candace Owen, c'est une influenceuse, ce qu'on appelle une influenceuse aujourd'hui. Il y a 20 ans,
elle est journaliste aussi.
C'est une éditorialiste. D'accord. Et qui occupe un rôle central qui est suivi par à peu près 4 ou 5 millions de followers sur Twitter et surtout qui est une personnalité stratégique de la campagne Trump, puisqu'elle est identifiée comme un de ses relais auprès de la communauté afro-américaine. Donald Trump, engrangeant grâce en partie à Candace Owen, énormément de voix, énormément d'intentions de vote chez les afro-américains, puisqu'il est passé, je crois, de 5 à 25 ou 30% selon les enquêtes d'opinion. Donc elle est extrêmement vue, elle est promue un grand avenir au sein effectivement du parti républicain, et elle est très proche de Trump. Et 24 heures d'ailleurs, 48 heures avant qu'elle relaie l'affaire Jean-Michel Trogneux de façon très simple et très pédagogique, elle pose avec Donald Trump, elle publie un selfie avec Donald Trump. On se rappelle que Donald Trump possède un dossier President of France qui est un dossier classifié. Donc qu'est-ce que ça veut dire un dossier classifié? Ça veut dire dont on peut penser qu'il est alimenté par les agences de renseignement. On se rappelle également que toute la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée va dans le sens des intérêts de l'État profond américain. Tout ça est également sourcé par les mails d'Hillary Clinton, où Jack Sullivan fait une note à Hillary Clinton sur les équipes d'Hollande et explique que Macron sera ministre de l'économie, alors que c'est une note qui date de 2012 et que François Hollande a dit que à ce moment-là que quelqu'un qui n'avait pas été élu, ce qui est le cas de Macron, ne pouvait pas devenir ministre. Mais Jack Sullivan, aujourd'hui conseiller la sécurité nationale des États-Unis, lui savait déjà que Macron serait nommé à Bercy. Donc on voit qu'il y a un fort tropisme américain et des réseaux effectivement liés à la CIA. Donc effectivement, Macron semble tenu effectivement par les Américains. Et là, surprise, on découvre que Donald Trump a conservé un dossier classifié President of France et que une de ses relais stratégiques, hein. Quant à Souven, faut comprendre ce que c'est. Pour être très simple, pour traduire en contexte français, c'est l'équivalent de Geoffroy Lejeune pour la campagne d'Éric Zemmour. Et pour les plus âgés qui nous écoutent, l'équivalent de Georges-Marc Benamou pour la campagne de François Mitterrand en 1988. Vous voyez, c'est pas tellement autre chose. Donc en fait, elle, qui, à mon avis, ne connaissait rien de Brigitte Macron il y a un mois, s'empare du dossier et dit qu'elle met sa carrière en jeu. Donc à mon avis, elle a une assurance, et l'assurance, c'est Donald Trump qui lui dit, écoute, va sur ce truc-là. Alors, pour être tout à fait transparent, nous avons contacté les Trumpistes, donc Candace Owen, mais aussi d'autres, la Trump Organization, etc., et avons transmis nos travaux. Alors, voilà comment a été présentée l'enquête. Nous avons dit, depuis 2 ans, deux femmes, Amandine Roy et Natacha Ray, qui accusent Brigitte Macron d'être née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Donc là, j'ai mis des articles en anglais, c'est-à-dire la dépêche de Reuters, une reprise du Daily Mail et un article de Zero Hedge qui annonçait l'abandon de certaines poursuites, celles pour l'atteinte à la vie privée. Donc j'ai dit que nous, on avait enquêté et qu'on en arrivait à la conclusion que ces femmes avaient raison. Ensuite, on faisait un clin d'œil en expliquant que quand était sortie l'affaire du dossier Macron de Mar-a-Lago saisi par le FBI, Macron avait déclaré lui-même sur CNN qu'il essayait de pas être parano, et grosso modo, on leur demandait de nous aider. Ensuite, on expliquait qu'on était une lettre confidentielle d'information éditée à Paris, distribuée uniquement sur papier, mais qu'on avait développé avec les réseaux sociaux une très large communauté qui nous permettait de récupérer de l'information en amont, de la traiter en aval, et que cette communauté était animée par le comte Zoé Sagan. Hein, c'est comme ça qu'on a présenté le produit, et ensuite on a effectivement envoyé nos travaux, dont une partie était traduite en anglais, ainsi que quelques faits d'armes qui pouvaient parler aux Américains. Par exemple, le fait qu'on avait annoncé 5 mois avant le Sun et le Daily Mail que Ghislaine Maxwell était en cavale en France. Donc ça, c'était une exclusivité de faits et documents qui pouvait parler aux Américains.
Ghislaine Maxwell de l'affaire Epstein, voilà, on précise.
Voilà, et que c'était nous qui avions annoncé que, en exclusivité, repris par Reuters, puisqu'on l'avait su de sources policières, que Jean-Luc Brunel avait été arrêté à l'aéroport de Roissy. Donc c'était une exclusivité, l'arrestation de Jean-Luc Brunel, c'était une exclusivité fait document qui a ensuite été reprise par Reuters. D'ailleurs, on peut se poser la question, c'est-à-dire que les médias français ont tellement pas traité l'affaire Epstein que les sources policières qui ont arrêté Jean-Luc Brunel considéraient que la source, que le média naturel à avertir pour l'arrestation de Jean-Luc Brunel, c'était fait document. Ce qui montre le niveau la dysfonction intégrale des médias français, quoi. C'est vraiment complètement anormal. Normalement, on appelle l'AFP, le journaliste police-justice du Parisien, on n'appelle pas fait les documents. Donc c'est vous dire. Donc en fait, on avait quand même des faits d'armes. On avait des faits d'armes à faire valoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa vidéo, Candace Owen suit parfaitement le plan de communication qu'on a dressé, c'est-à-dire Natacha Ray, Amandine Roy, les femmes qui accuse Brigitte d'être un homme, elle retweet fait et documents et elle répond à Zoé Sagan. Donc ça veut dire qu'on avait un schéma qui a vraiment été suivi. Donc c'est un vrai coup de pouce de l'entourage de Trump, tout en sachant que Trump a effectivement un dossier classifié.
Alors, on a fait l'historique. Voilà, on a fait 10 minutes d'historique où on explique un peu voilà l'affaire. Allons maintenant sur le livre de Madame Anison. Qui est grand reporter du Nouvel Obs. Voilà, mettez son livre là un instant, L'affaire Madame. Voilà, c'est celui-là, qui est sorti le 22 mars. Elle explique, je crois, à France Culture qu'elle s'est infiltrée dans ce qu'elle appelle le milieu. Elle dit pas complotiste, elle dit les déviants, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses et comment tu juges son travail ?
Alors, je suis désolé, mais tu vas me permettre de avec cette question, tu me permets aussi de compléter ma chronologie, parce qu'en vérité, son titre s'appelle « Anatomie d'une fake news ». qui en plus ne traduit pas son travail et ne traduit pas vraiment ce qu'il y a dans le livre. Mais bon, je vais quand même être obligé de répondre parce qu'effectivement, moi, je travaille, je suis journaliste, je fais pas n'importe quoi. Et fake news, ça va pas. Moi, je le prends comme une injure. Donc, on va être très clair. Et surtout qu'en plus, ce truc de fake news arrive au moment où la rumeur passe l'Atlantique et au moment où elle est officialisée avec des signes très clairs d'officialisation. Faut bien comprendre que le couple Macron, à la fois, a toujours fonctionné selon cette contradiction qui est à la fois de cacher à tout prix le secret et en même temps d'envoyer des signaux très clairs.
Alors, je te coupe 10 secondes, c'est pour dire, voilà, elle disait les défiants, pardon, excusez-moi, Emmanuel Anison a dit les défiants, voilà, excuse-moi, voilà. Vas-y, tu continues.
Alors, donc, au niveau de l'officialisation, il y a des choses très claires. Par exemple, il y a une couverture du Figaro magazine où Brigitte Macron pose à côté de Nicolas Guéquière de LVMH, qui est son couturier. Or, quelle est la spécialité du couturier de Brigitte, Nicolas Guéquière? C'est d'être couturier pour. Enfin, c'est lui qui a introduit les transsexuels dans le mannequinat. Autre signe d'officialisation sur le plateau de Léa Salamé dans l'émission phare de France 2 avait été convié donc dans la semaine qui a suivi la vidéo de Candace Owen Jean-Paul Gaultier, Amanda Lear. Et Jean-Marc Dumontet, c'était un producteur de théâtre homosexuel qui est très proche des Macron et qui a coaché Emmanuel Macron. Jean-Paul Gaultier, c'est les années Palace, c'est la mode, le milieu homo, et Amanda Lear, c'est, on va pas revenir dessus, c'est le symbole du transsexualisme. Bon, et évidemment, l'humoriste arrive, fait des blagues sur Jean-Michel et tout le monde se marre. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une officialisation par le rire, une sorte de déminage par le rire. D'ailleurs, je veux revenir dans cette phase de communication sur quelque chose qui n'a pas été compris. Tiphaine Ozière a annoncé que Brigitte et son frère portaient plainte. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de nouvelle plainte. Les plaintes qu'elle évoque sont en fait, c'est le procès qui sera jugé en mars 2023, donc qui est la dernière manche des procédures judiciaires de l'affaire Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy. Donc c'était, alors si je peux être très précis sur cette plainte, ça me semble important. Donc c'est une plainte en diffamation de Brigitte et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy. Alors les gens disent bah voilà, il y a une plainte en diffamation. Alors en fait, cette plainte concerne un point très technique du dossier. Si je peux expliquer en 5 minutes, c'est vraiment clair pour tout le monde. D'ailleurs, Emmanuel Anison l'a dit sur France Culture, et c'est très courageux à elle de l'avoir précisé, c'est-à-dire qu'en vérité, au printemps 2021, Natacha Ray fait une demande à la mairie d'Amiens de consulter l'état civil sans filiation de Jean-Michel Trogneux. Elle demande à la mairie d'Amiens puis avoir l'état civil sans filiation de Jean-Michel Trogneux. Et la mairie d'Amiens lui répond « Nous ne possédons pas ce document, cet individu n'est pas né dans notre commune, merci de vous adresser à la mairie de naissance de Jean-Michel Trogneux. » Natacha Ray refait la demande et elle reçoit la même réponse, donc elle a deux réponses négatives. Et donc quand elle s'exprime, or on sait déjà par ailleurs que Jean-Michel Trogneux est née à Amiens le 11 février 43, puisqu'on a des inscriptions dans des documents de société. Donc elle, ayant essuyé deux réponses négatives de la mairie d'Amiens sur une naissance d'un Jean-Michel Trogneux à Amiens, on conclut que l'état civil a été modifié. Et donc quand elle communique chez Amandine Roy, elle dit « il est bien né à Amiens, mais la mairie d'Amiens veut pas donner l'état civil, c'est la preuve qu'il a été modifié ». Et ensuite, ce n'est qu'ensuite, le 31 décembre 2021, après le buzz, que pour la première fois, la mairie d'Amiens acceptera de délivrera l'état civil de Jean-Michel Trogneux sans filiation à Paul-Éric Blanru, et puis ensuite acceptera à d'autres citoyens de délivrer l'acte d'état civil avec filiation de Jean-Michel Trogneux. Donc, Natacha Ray, non seulement peut, alors ensuite, nous, quand on a enquêté, on a des enregistrements audio qui montrent que, en fait, à la mairie d'Amiens, ce dossier a été suivi de très très près avec un officier d'état civil spécifique chargé de ce dossier. Donc nous, on a un enregistrement audio qui pourrait être effectivement versé au dossier de Natacha Arlet dans le cadre de son procès. Donc en fait, c'est tout ça pour dire que le procès dont parle Tiphaine Auzière dans les médias, et quand les médias vous disent que il y a un procès en diffamation qui sera jugé en mars 2025, sachez que c'est sur ce point de détail où Natacha Arlet peut non seulement plaider la bonne foi, mais en plus contre-attaquer pour procédure abusive et tirer au clair ce qui s'est vraiment passé à la mairie d'Amiens. Voilà, donc je voulais préciser ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Anison l'a courageusement évoqué sur France Culture. Alors, le bouquin d'Emmanuel Anison, tu veux, on se lance sur le livre d'Emmanuel Anison ?
Oui, allez, on se lance.
Alors, le livre d'Emmanuel Anison, il est bizarre. C'est-à-dire que si c'est une fake news, on est des salauds. Parce que Emmanuel Anison vient de Télérama et du Nouvel Observateur. C'est une journaliste de gauche avec un tropisme en plus féministe, puisqu'elle a beaucoup couvert l'affaire MeToo. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus horrible que de dire qu'une femme est un homme ? Hein ? Donc, si,
on se demande,
si logiquement, non mais si logiquement, Emmanuel Anison avec son tropisme féministe, elle dit que c'est une fake news, c'est qu'on est les pires des salauds. C'est que Natacha Arlet est folle, que moi, puisqu'elle écrit que j'ai les moyens d'enquêter, je suis soit un escroc, soit un menteur, et que et Zoé Sagan est un irresponsable et une ordure. Or, c'est pas du tout ça qu'elle dit. Elle fait trois portraits, donc c'est articulé avec ces portraits-là, bon, voilà. Où Natacha Arlet est présentée comme quelqu'un, comme une littéraire, cultivée, une très belle femme, un peu artiste, etc., curieuse, etc. Moi, je suis décrit comme un enquêteur méticuleux, pointilleux, méthodique.
Bon, elle est sympathique. C'est quand même sympathique.
Non, mais si. Voilà. Si je suis pointilleux, méthodique, etc., c'est que j'ai les moyens de savoir que c'est une fake news. Et Zoé Sagan, lui, est présenté comme un écrivain rieur qui est en train de créer quelque chose de nouveau. Donc en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui connaîtrait pas l'affaire. Il y a déjà quelque chose qui cognitivement ne colle pas. Ensuite, elle valide quand même beaucoup de choses. Elle valide effectivement, elle rappelle bien les zones d'ombre autour de la biographie de Brigitte. Elle en déniche de nouvelles d'ailleurs. Elle déniche de nouvelles incohérences, etc. Et elle révèle surtout quelque chose d'important, c'est que la première garde à vue de Natacha Arlet à l'été 2021 avait été déclenchée sur intervention de l'Élysée. Donc ça c'est le vrai scoop du livre, puisque jusque là Natacha Arlet, quand elle est arrêtée en 2021 officiellement, c'est suite à une plainte des Auzières.
Voilà, donc c'est les Auzières, mais c'est pas les Auzières, c'est l'Élysée qui met son nez dedans du coup pour le coup. C'est l'Élysée qui dit voilà, il faut prendre.
En fait, il y a une dame. Vas-y. Si tu veux, pour être très simple, il y a une dame qu'elle suspecte avoir eu des enfants avec Jean-Michel Trogneux, qui est marié avec un homme qu'elle suspecte être la doublure du premier mari de Brigitte. Il s'avérera que ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme est le cousin ou le neveu ou l'oncle, je sais plus. Enfin bon, il est de la famille, quoi. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, mais il est de la famille, voilà. Du André Auzière, donc c'est son oncle exactement, et Catherine Audouin est extérieure à l'affaire. Or, elle va envoyer des textos à Catherine Audouin en lui disant « Je sais que vous êtes la mère des enfants de Brigitte ». Et en fait, Jean-Louis Auzière voit les textos, il appelle Laurence Auzière, et Laurence Auzière lui dit « Vois ça directement. »
Avec l'Élysée.
Avec l'Élysée. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que l'Élysée leur dit « Allez-y, portez plainte, on vous soutient ». Et en fait, ce que va faire l'Élysée, comme font toujours les Macron, puisque c'est ils trahissent et ils roulent les gens dans la farine, ils vont les lâcher. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le livre d'Emmanuel Anison, donc déjà on apprend ça, c'est-à-dire que Natacha Ray a bien eu des persécutions dès le début sur intervention de l'Élysée. Et ensuite, l'Élysée avait promis que dans le dossier pour faire condamner Natacha Ray, que les poursuites seraient conjointes, or elles ne l'ont pas été, et ils avaient promis que Brigitte légenderait la photo de mariage de Brigitte Trogneux avec André Ozière en disant « c'est bien moi » dans le dossier, etc., sur la photo de mariage. Or, Brigitte ne l'a jamais fait. Et pour cause, parce que c'est pas elle, Brigitte Trogneux, et c'est pas elle sur la photo de mariage. Parce qu'effectivement, une fois qu'on commence à accumuler des photos et que ces photos, qui sont les preuves, qui sont validées scientifiquement par la reconnaissance faciale, on voit que Brigitte est née Jean-Michel Trogneux le 11 février 45 à Amiens. Donc, ça, c'est vraiment une vraie révélation du livre d'Anison. Ensuite, elle soulève d'autres contradictions. Par exemple, elle va rencontrer Jean-Alexandre Trogneux, qui est l'actuel chef de la famille Trogneux. Ils s'appellent tous Jean quelque chose. Hein, c'est le fils de Jean-Claude, le neveu de Jean-Michel, l'oncle de Jean-Jacques et le père de Jean-Baptiste. Hein, donc, elle va rencontrer Jean-Alexandre Trogneux. Et Jean-Alexandre Trogneux lui dit, elle lui pose une question, elle cherche à rencontrer Jean-Michel Trogneux, elle lui pose la question sur cette affaire. Et Jean-Alexandre Trogneux lui dit « Cette affaire nous a tous phagocytés. »
Tiens, on met l'arbre généalogique pour que les gens comprennent. Vas-y, voilà.
Non, il n'est pas dedans. C'est un arbre généalogique simplifié.
Ah, d'accord.
Il va voir Jean-Alexandre Trogneux. Et Jean-Alexandre Trogneux lui dit « Nous, on s'entend, il est Trogneux, nous avons tous été phagocytés par cette affaire. » qui est un terme très fort. Et en fait, quand elle va aller rencontrer le petit gros, qui est présenté comme l'actuel Jean-Michel Trogneux, mais ça colle absolument pas avec les photos de jeunesse qu'on a de Jean-Michel Trogneux, puisque les photos de jeunesse de Jean-Michel Trogneux, elles collent avec Brigitte. Et quand elle va aller rencontrer le petit gros va lui dire « Oh ben moi, cette affaire, elle a rien changé dans ma vie, j'en ai rien à foutre. » Voilà, donc là, il y a encore une contradiction, c'est-à-dire que si c'est un Trogneux, il a été phagocyté. Or, si les Trogneux ont été phagocytés, mais pas lui. Bon, ensuite, elle dit bien le silence de l'entourage de Brigitte, elle rappelle la difficulté des biographes, qui avait été le propos initial du mystère Brigitte Macron, qui était sur ces photos qui apparaissent au compte-gouttes et qui collent pas, etc., etc. Donc en fait, elle valide relativement tout, mais elle dit que c'est une fake news. Voilà. Alors, mais comme elle dit,
pourquoi
elle
en vient à cette conclusion justement ? Tiens.
Alors, ben là, je vais te raconter. Je pense que ça peut intéresser.
Raconte-nous. Là, pour le coup, c'est inédit. Tu l'as jamais dit à personne, en tout cas pas publiquement. Donc, raconte-nous.
Ouais. Alors en fait, on rentre en contact avec Emmanuel Anison tout simplement parce que elle achète la série Le Mystère Brigitte Macron et me la demande en PDF. Donc moi je me dis de toute façon ce sujet-là, il est tellement explosif, puis il y a déjà trois procédures, puis ça touche l'Élysée, il y a eu un buzz international, ça touche l'Élysée, etc. On est en juin 2022, je me dis de toute façon, il y a bien un journaliste mainstream qui va s'intéresser à l'affaire. Je la contacte, et puis on rentre en contact, elle cherche surtout à suivre Natacha Ray. C'est Natacha Ray qui l'intéresse. D'ailleurs, son livre tourne beaucoup autour de Natacha Ray, et c'est pour ça que l'Élysée, avant la phase Candace Owen, a tenté de réorienter les attaques sur le dossier sur Xavier Poussard, le GUD et les Russes, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient enfermés dans un piège avec Natacha Ray. Parce qu'au début, ils attaquent Natacha Ray en disant « Natacha Ray, c'est le point faible, on va la faire tourner en bourrique, et puis Poussard va finir par la lâcher ». Or ça s'est pas produit comme il le pensait, et en plus, ils pensaient que les Français, là, ils comprennent rien au peuple français, c'est-à-dire que les Français, c'est un peuple certes très cartésien, mais les Français adorent les femmes mystiques, hein, de Jeanne d'Arc à Marie-Julie Jaény à Thérèse de Lisieux, etc. Les Français, ils adorent ça. Et en fait, la personnalité de Natacha Ray, je veux dire, c'est très très populaire ce qu'elle a fait auprès des Français, même si pour un esprit rationnel, le fait qu'il y ait une voyante, des choses comme ça, etc., ça peut paraître un peu baroque, Mais en fait, ça répond à des choses très profondes dans l'inconscient français. Donc là, les trogneux se rendent, en plus, l'Élysée se rend compte qu'ils sont plantés, justement en focalisant le dossier sur Natacha Ray, puisqu'ils savent maintenant que Emmanuel Anison va écrire un livre qui est focalisé sur Natacha Ray, qui en plus dépolitise le dossier. Et moi, j'ai toujours intérêt à ce que le dossier soit porté par des femmes, effectivement, puisque moi, avec ma grosse voix, si je dis Brigitte et Néum, ça paraît bizarre. Alors que si c'est une femme qui le dit, on voit ce que c'est une femme et on voit ce que c'est Brigitte. C'est aussi bête que ça. Donc Emmanuel Anison angle son livre sur Natacha Ray, ce qui en fait n'arrange pas l'Élysée, parce que ça dépolitise le dossier, effectivement. D'ailleurs, c'est très bien joué de la part du Cantrum d'avoir fait porter par Candace Owen, qui elle aussi est une femme, et non pas par un gros bourrin genre Alec Jones, etc. Hein, c'est pour ça que c'est très intéressant.
Candace Owen. On peut pas dire qu'elle est d'extrême droite, etc. Quoi. Enfin, même s'ils l'ont fait pour le coup.
Mais bon. Bah là, si tu veux, on est dans le. Et de toute façon, on est dans l'inversion totale de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Anison, qui est une quinca blanche, qui travaille dans un titre qui est propriété de Xavier Niel, c'est soi-disant progressiste et elle dit que c'est une fake news. Et Candace Owen, elle est censée être réactionnaire, une horrible réactionnaire, alors que c'est une femme noire de 35 ans. Enfin, de toute façon, tout est inversé aujourd'hui. Hein, on est vraiment à l'ère du serpent qui se mord la queue et de l'inversion de tout.
On peut ajouter juste que c'est pas simple d'enquêter sur cette affaire. Je fais d'ailleurs un coucou à mon amie Myriam Palomba. Qui a subi quelques foudres, hein, je la salue. Et continue.
Donc bon, alors pour faire très simple, Emmanuel Anison, donc je rentre en contact avec elle. Emmanuel Anison, c'est une journaliste. Donc comme je dis, quinquagénaire, qui a fait l'essentiel de sa carrière à Télérama, où elle a passé 15 ans, puisqu'en fait elle a intégré au début ce qu'on appelait les publications de la vie catholique, qui ensuite étaient rachetées par le groupe Le Monde. Et donc du coup, voilà, elle incarne un peu ces cathos de gauche, un peu féministe, écolo. Enfin voilà, elle est dans le journalisme de gauche.
Alors, j'avais juste une question, 10 secondes. Je voulais juste préciser aussi que l'actionnaire en partie de 34% de la maison d'édition qui publie ce livre, c'est la femme du porte-parole de Tsahal. C'est quand même pas rien, Madame Rafovitch. Bon, est-ce que cette info vaut quelque chose? Voilà. En tout cas, je le mets sur le tapis.
Bon, moi, je vais pas forcément rentrer là-dedans. Je t'explique juste comment on a travaillé. Tu vois, ça me semble intéressant de raconter aussi comment on a travaillé. Donc, on rentre en contact, on échange assez librement. Pour tout dire, on rigole bien, quoi. Elle est très sympa. Hein, honnêtement, Emmanuel Anison est une journaliste très sympa.
Je le confirme. Elle est très honnête. Sympa.
Voilà. J'ai regardé ce qu'elle avait fait. J'ai vu qu'il y avait des choses qui m'avaient plu, des portraits qu'elle avait fait dans Télérama. J'ai regardé. Il y a un portrait d'Anne Sinclair, un portrait de Christine Ockrent et un portrait de Nicolas de Taverneau que j'avais trouvé pas mal. J'avais vu qu'elle avait couvert de façon assez honnête les Gilets jaunes, etc. Et puis de toute façon, comme je te dis, de toute façon, à un moment donné, il y avait un journaliste mainstream qui allait s'intéresser à l'affaire, et elle, avait l'air honnête, et à mon avis, elle l'est sincèrement. Donc elle suit Natacha Ray dans ses pérégrinations, etc. Et moi, j'ai intérêt à jouer la transparence. Pourquoi je joue une sorte de transparence intégrale? Parce qu'à ce moment-là, j'ai été convoqué à la police par Emmanuel Macron, enfin sur demande d'Emmanuel Macron, pour une plainte pour faux et usage de faux dans une autre affaire qui s'appelle l'affaire du palais d'Arolfa. Et là, je me dis, en fait, derrière cette plainte, je me dis, si jamais j'ai vraiment des pièces probantes, eh ben, ils vont m'accuser de faux et usage de faux. Donc j'ai intérêt, pour moi, à jouer la transparence et je joue la transparence intégrale en me disant, comme ça, si je peux publier, je veux quand même une sorte de garante, c'est-à-dire quelqu'un qui aura vu, à qui j'aurais tout ouvert, et voilà, qui pourrait être presque caution, quoi, au moins, enfin voilà, qui aura vu à quel point j'ai été honnête dans cette affaire. Donc voilà, on échange, elle me raconte ce qu'elle a, moi je lui envoie ce que j'ai, enfin voilà, de façon très 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 désintéressé presque, enfin vraiment voilà. Et donc ensuite donc là on est en juin 2022, l'année 2022-2023 se passe, donc elle suit Natacha Ray, moi je travaille un peu sur autre chose, enfin je suis plus en basse intensité sur l'affaire, et puis va arriver le procès de Natacha Ray contre les Hozières, et à ce moment-là, moi je mets un coup de bourre, c'est ce que je t'ai raconté la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a récupéré les listes de classe de Brigitte Trogneux, tous les gens qui ont été en classe avec Brigitte Trogneux, tous les gens qui ont été en classe avec Jean-Michel Trogneux, on les a listés, on les a fichés, et on les contacte un par un. On enregistre les appels, on enregistre les témoignages, etc. Donc ça, c'est moi qui fais ça. D'accord ? Donc c'est une manœuvre très 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 compliquée, qui est très longue, très pénible. C'est vraiment très chiant. En mi-juin, Emmanuel Anison m'appelle et me dit bah, je vais aller à Amiens rencontrer les Trogneux, puisque effectivement, elle couvre tout. C'est-à-dire qu'elle va voir les Hozières, elle va voir les Trogneux, elle cherche à rencontrer tous les protagonistes de l'affaire, quoi. Et je lui dis, ben, si vous avez des, je lui dis, vous contentez pas de témoignages. D'ailleurs, elle le raconte dans le livre, vous contentez pas de témoignages. Essayez de récupérer des photos. Et moi, je lui dis, bon, ben, si vous allez à Amiens, je peux vous donner, des renseignements que j'ai pris. Donc, je reprends mes listes de gens que j'ai contactés et j'identifie à travers les conversations que j'ai eues, un tel m'a dit, ah, lui était très proche de Jean-Michel Trogneux, etc. Puis je vois ceux qui sont très liés aussi à, au cœur de l'écosystème de la bourgeoisie amiennoise, qui sont liés, à la mairie, etc., qui ont des relations parents ou alliés avec les Trogneux. Et donc, je vais sélectionner 5 contacts. 7 contacts pour Brigitte, d'ailleurs 5 contacts pour Jean-Michel, qui sont des contacts que je qualifie de prioritaires. Et je me dis en même temps, si je les traite moi, je ferme une porte. Alors que si c'est Emmanuel Anison qui va, on peut peut-être obtenir quelque chose. Mais je lui donne la documentation, quoi. Je veux dire, c'est pour elle. Tu vois, ça, elle m'appartient plus.
Tu donnes
plus,
attends, tu donnes des docs à Emmanuel Anison. C'est toi qui lui
donne. Je lui donne une liste privilégiée de contacts de gens que j'ai identifiés comme ayant eu un passé proche avec Brigitte ou avec Jean-Michel Trogneux. Donc 5 avec Jean-Michel Trogneux, 5 avec Brigitte, en me disant je les ai identifiés comme ayant très probablement des photos et très probablement eu un vécu avec ces individus. Et moi, de mon côté, je poursuis et moi, total, je récupérerai 4 photos. Moi, je récupère 4 photos, 4 photos de classe de Jean-Michel Trogneux, que j'ai publié d'ailleurs dans Fait et Documents, à l'exception d'une, puisque qui est la photo de 5e, où Jean-Michel Trogneux manquait à l'appel ce jour-là. J'expliquerai pourquoi. Dans mes prochains numéros. Elle, Emmanuel Anison, va prendre la liste, et elle va appeler la première des Brigitte, c'est-à-dire celle que j'ai classée en contact prioritaire, et le premier de Jean-Michel. Et dans les deux cas, elle va récupérer 2 photos. C'est clair, c'est-à-dire qu'elle récupère 2 photos de classe de Jean-Michel, et sur Brigitte, elle va récupérer une photo. Donc celle-là, c'est là tu pourrais remettre l'arbre généalogique pour que les gens comprennent. Voilà.
Vas-y.
Donc en fait, voilà. Donc quand tu regardes l'encadré Brigitte Trogneux, donc ça c'est 2 des photos que j'ai récupérées là qu'on voit sur en dessous de Jean-Michel Trogneux.
Voilà.
C'est 2 des photos que j'ai récupérées.
Voilà.
Voilà. Tu vois, il y a deux photos que j'ai récupérées. Donc dans ces 2 photos, Emmanuel Anison, elle en a récupéré une qui était la même photo de classe, mais elle
laquelle
l'a récupérée d'une autre, celle de gauche,
D'accord.
Ce qui est la photo de 7e. Donc elle la récupère avec un autre interlocuteur. Donc en fait, on l'a en double cette photo. Donc en fait, c'est recoupé. Donc il y a pas de manip sur les photos de Jean-Michel Trogneux. Hein, l'avantage de se dédoubler, c'est que elle va chez un type, elle récupère la photo, moi de mon côté, je la récupère. Quand on compare, c'est bon, c'est la même photo de classe, il n'y a pas eu de magouille, il n'y a rien. Bon. Quand elle va voir Brigitte Trogneux, donc nous on avait 2 photos de Brigitte Trogneux, il y a 2 photos de Brigitte Trogneux jeune, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de photo de Brigitte Trogneux jeune, c'est pas vrai. Il y a une photo, je mets de côté les photos de nourrisson, où on peut rien identifier du tout, les photos sont trop jeunes, mais on a la photo de communiante, donc on peut considérer qu'elle a 10-11 ans, qu'on voit là, au-dessus de Brigitte Trogneux, et la photo de mariage qui a été publié dans le faire-part de mariage de Brigitte Rogneux en 1974 avec André Ozière. Moi, ce que je veux à ce moment-là, d'abord, c'est pour ça que ça m'énerve un peu tous les qualificatifs, les fake news, les déviants, les machins, les défiants ou je sais pas quoi, c'est que moi, je suis journaliste. Moi, tout ce que je veux, c'est des recoupements sur les individus. Puisqu'à l'époque, on a Jean-Michel Trogneux sur la photo de famille. On a Brigitte Trogneux la communiante et Brigitte Trogneux la mariée. Moi, je veux bien vérifier que ces photos-là sont pas, dans quelle mesure elles posent problème et si elles posent problème, qui sont les individus dessus. Et donc, comment on recoupe en l'occurrence? Alors, moi, j'entends parler des tests ADN. Moi, je suis pas commissaire divisionnaire ni juge d'instruction. Moi, je suis journaliste. Et qu'est-ce que je peux faire pratiquement? C'est appeler des gens qui ont connu les individus et leur demander des photos, si possible, dans un cadre qui permette effectivement de recouper que ce sont bien ces individus. Je vais prendre un exemple très simple. Qu'est-ce que c'est recouper à partir de photos? Il y a une affaire très connue dans la biographie de Mitterrand qui est l'affaire de la manifestation de l'Action française devant la faculté de médecine en 1935. Il y avait une photo, on voyait de cette manifestation dont le slogan était « Dehors les métèques ». C'était une manifestation de l'Action française. Et on disait que Mitterrand avait été présent lors de cette manifestation. Et ben, des journalistes ont appelé des gens présents lors de cette manifestation et ont fini par récupérer une photo de la dispersion de cette manifestation où là, on voit effectivement François Mitterrand. Donc en fait, c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on appelle un recoupement. Et donc c'est exactement ce que va faire Emmanuelle Hennison. C'est-à-dire que quand elle va aller voir le contact de Brigitte Rogneux, elle va récupérer une photo du groupe de communiantes, hein, et on identifie sur cette photo donc que la communiante est bien Brigitte Rogneux, et elle va récupérer une photo de 1976 qu'elle évoque dans son livre, où Brigitte Rogneux est témoin de mariage de la contact que j'avais défini comme prioritaire, et sur cette photo, Brigitte Rogneux est de profil, et on peut vérifier que c'est bien la mariée. Donc en fait, Emmanuelle Hennison, quelque part, c'est elle qui a vu le plus de preuves que c'était vrai. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec une journaliste qui en plus est honnête, qui est efficace, qui est professionnelle, et qui est celle qui voit, qui est sans doute avec moi celle qui a vu le plus de preuves, et elle signe un bouquin où elle dit que c'est une fake news. Et moi, ça, je peux pas, parce que moi, j'ai travaillé comme un chien et je veux pas qu'on dise c'est une fake news. Ça, c'est pas possible.
Bien sûr.
En plus, après, elle joue sur les mots, elle fait de la mauvaise foi en disant oui, on peut pas conclure 2 ans d'enquête en disant que la preuve c'est la reconnaissance faciale. Je réinsiste, la preuve n'est évidemment pas la reconnaissance faciale. La preuve, ce sont les photos. Et la reconnaissance spatiale, c'est la validation scientifique de la preuve. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser cette innovation technologique, alors que la grande presse nous rabat les oreilles avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est ridicule. C'est comme si toi, tu me disais, oui, tu m'as envoyé un fax pour préparer l'émission. Moi, je te dis, bah non, le plan, je te l'ai envoyé sur les applications. Bah oui, parce qu'en 2024, on a des applications, je vais pas t'envoyer un pack.
Alors, on a répondu à Emmanuelle Hennison, voilà. On sait, et pour pas perdre les gens, on va continuer là, sur le côté un peu international. Remettez la régie, remettez Xavier et moi-même, avec Candace Owens. Candace Owens a fait sa vidéo où elle parle de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, etc. Elle a été virée depuis. Voilà, je le dis. Bon, est-ce que là, actuellement, tu as, cher Xavier, des contacts avec elle? Est-ce qu'elle a été virée à cause de cette histoire? Et est-ce que tu as pu parler avec elle des documents que détient aujourd'hui Donald Trump sur le couple présidentiel?
Mais, tu vois, là, c'est le parallèle qu'on peut faire. C'est-à-dire que le parallèle, c'est entre Emmanuelle Hennison et Candace Owens. Hein, c'est les deux personnes qui rentrent dans ce dossier en ce moment. Hein, on a une Trumpiste de 35 ans conservatrice et une progressiste blanche quinca de l'Obs. Hein, donc, c'est déjà, En fait, c'est très intéressant. Et Et en fait, qui s'est passé à un moment donné, je reviens sur Emmanuel Izou parce que c'est intéressant, parce que précisément, on va voir, c'est ce qui arrive à Candace Owens, je lui dis, écoutez, allez au bout. Je lui dis, prenez tout le matériel, tu vois, parce qu'en plus, il y a d'autres pans du dossier sur lequel je l'ai sourcé, moi, j'avais pas de problème, tu vois, par exemple, sur... En plus, je précise quand même, Mike, écoute bien ce que je vais dire.
Vas-y.
Je précise quand même que quand elle va à Amiens chercher les photos, le résultat est très net. Ça veut dire que Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Brigitte Trogneux est une autre personne, c'est sa sœur. Bon.
Donc, imaginons. Donc Brigitte Trogneux, c'est la sœur de Jean-Michel?
Oui, voilà, c'est la sœur de Jean-Michel. Mais Brigitte, là, c'est un individu né homme qui vit avec l'identité civile de naissance de sa sœur. Ça, c'est pas ça qui est important.
D'accord.
Si jamais Emmanuel Anison avait trouvé des photos, c'est-à-dire que sur les photos qu'avait trouvé Emmanuel Anison, eh bien, tout simplement, Brigitte Trogneux, c'était Brigitte Macron, et Jean-Michel Trogneux, c'était le petit gros, je peux te dire que le livre, ça aurait pas été le même. Et les portraits auraient été au vitriol. Et donc c'est pour ça que je dis aux gens que Emmanuel Anison, au bout d'un moment, elle s'est retrouvée face à ça, s'est posée une question. Moi, j'ai une conversation avec elle. Je lui dis allez au bout. Et en fait, aller au bout, ça implique énormément de choses. C'est-à-dire que d'ailleurs, au bout d'un moment, elle raconte dans son livre qu'elle va voir Tristan Mendès France et qui lui explique que en fait, c'est le gender, je sais pas quoi, élite inversion, je sais pas quoi. Enfin, que c'est une théorie du complot d'extrême droite américaine. Et donc en fait, Emmanuel Anison, qui a fait 15 ans à Télérama, elle se retrouve à avoir vu quelque chose et on lui dit « Ah bah si t'as vu ça, c'est que t'es d'extrême droite américaine ». Donc évidemment, ça a impliqué un changement de vie et c'est pour ça qu'elle fait ce livre, qui est quand même malgré tout assez honnête, qui révèle quand même malgré tout des choses. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils auraient fait à sa place, c'est-à-dire que moi, je la comprends, c'est-à-dire que ça a impliqué de changer de vie. Etc.
Qu'est devenue Brigitte? Qu'est devenue la vraie Brigitte? Parce que c'est ça la question, en fait. Qu'est devenue la vraie Brigitte?
Non, mais la question pour l'instant, c'est de comprendre la phase médiatique.
Parce qu'on va pas parler deux heures d'Anison. Voilà, on a compris, Anison. Voilà,
L'actu du dossier, c'est Candace Owens et
voilà,
c'est Anison.
Candace Owens.
Et l'actu du dossier, c'est comment tu pousses un dossier, tu vois, c'est comment tu pousses un dossier. C'est pas forcément l'aboutir, c'est comment tu le pousses, si tu veux. Donc voilà. Alors ensuite, Candace Owens, ce qui est intéressant, c'est que les Trumpistes nous font un vrai clin d'œil. On voit quand même que la réponse sur Candace Owens est très très dure, puisqu'elle se fait renvoyer de son média, du Daily Wire, qu'elle est accusée d'antisémitisme.
À cause de ça, est-ce que c'est à cause de ça qu'elle est virée?
En tout cas, c'est un événement qui se produit en parallèle. Le lien de cause à effet, je n'en sais rien, mais en tout cas, on voit que elle a été très attaquée sur ce qu'elle a fait par rapport à nous. En tout cas, ça prouve bien que ça reste quand même un dossier chaud. Ça prouve quand même que le camp Trump s'y intéresse, je pense, pour deux raisons. Parce que, d'une part, ils veulent bloquer une éventuelle candidature de Michelle Obama. Donc, c'est une sorte de tir de sommation. Et parce qu'ils veulent, Trump veut vraiment se représenter face à Biden et veut pas que Biden se défile. Et d'autre part, parce que Donald Trump fait vraiment une fixette. Sur Emmanuel Macron, donc c'est bien ça qu'il faut suivre. Alors c'est dommage qu'Emmanuel Anison soit pas allé jusqu'au bout, puisqu'effectivement on peut il faut quand même pousser ce sujet, enfin il y a vraiment quelque chose à creuser, quoi, et ce serait quand même intéressant qu'on puisse avancer de façon raisonnable, journalistique, c'est-à-dire effectivement recouper et rapporter les informations. Et moi, je le dis, puisque Candace Owens l'a présenté comme ça, elle met en jeu sa carrière journalistique. Moi, j'ai mis en jeu ma carrière sur Natacha Ray et j'ai mis en jeu ma carrière sur Emmanuel Anison, effectivement, en lui délivrant les informations, en lui ouvrant mes archives, et grâce à mon travail, elle a pu aussi voir, effectivement, des photos qui n'ont pas encore été publiées jusque-là. Et quelque part, c'est elle qui a vu qui a vu l'épreuve. Donc, je pense que ce serait intéressant quand même qu'au niveau de la profession de journaliste en France, on puisse commencer à aborder ce sujet de manière dépassionnée, en faisant du journalisme, c'est-à-dire recouper et effectivement rapporter l'information. Donc mais, c'est pour ça que nous, on sort là, alors, on prépare.
Très bien, mais n'ouvrons pas trop de parenthèses, parce qu'après, les gens vont rien comprendre. Soyons vraiment là-dessus, clairs, concis. Voilà, n'ouvrons pas de parenthèses. Voilà, là, je te pose des questions. Vraiment, on y répond essentiellement à ces questions et ne revenons pas dans le passé. On a parlé d'Emmanuel Anison. Là, on parle de Candace Owen. Donc, est-ce que elle vous a parlé, elle t'a parlé des documents que détient Trump si Candace Owen, évidemment, a pris contact avec toi?
Non, mais il faut être sérieux deux minutes. Donald Trump, il est candidat à l'élection, à la présidence des États-Unis. Je veux dire, il va pas filer des informations classifiées à des journalistes français. Il faut quand même être sérieux deux minutes. Je veux dire, publiquement, déjà, une de ses principales lieutenants nous retweet et nous donne un coup de pouce. Je pense qu'ils attendent de voir ce qu'on a publié pour éventuellement rebondir. Voilà, je ne vais pas, de toute façon...
D'accord, très bien.
C'était quand même relativement confidentiel. Je t'ai dit à peu près ce qu'il en était jusqu'à présent, puisque de toute façon, tout ça est accessible en source ouverte. Voilà.
Impeccable. Donc, y a clairement cher Xavier, la fille de Brigitte Tiffenozière a dit que sa mère et son oncle avaient porté plainte pour atteinte à la vie privée. Voilà, est-ce que ça c'est vrai? Et a-t-on la plainte avec les deux signatures?
Non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, je l'ai publié dans Fait et Documents, cette plainte. Plainte a été publiée dans Fait et Documents, et d'ailleurs, ça a été repris par le Daily Mail. Tu vois, j'ai bien fait de publier tous les documents judiciaires, puisque du coup, ça a quand même permis à des journalistes de voir vraiment ce qu'il en était. En fait, c'est pas une... Donc là, elle dit, oui, ma mère et mon oncle ont porté plainte, ce qui est vrai. Mais c'est la plainte pour diffamation contre Natacha Red dont je te parlais au début d'émission.
D'accord.
Qui est une plainte qui ne concerne pas.
Je commence à plus rien comprendre.
Quand on voit ce que Enoki a sourcé parce qu'il faut fournir des documents avec une plainte, c'est assez faible. En fait, c'est une plainte qui est construite justement pour avoir le moins de pièces à fournir possible et qui est une plainte, je te dis, qui ne repose que sur l'accusation formulée par Natacha Ray que Jean-Michel Trogneux aurait falsifié des actes d'état civil ou fait falsifier des actes d'état civil qui effectivement n'étaient pas vrais, mais qu'elle avait affirmé grâce à des pièces qui lui avaient été fournies par la mairie d'Amiens. Donc en fait, dans cette affaire qui est un point technique, très technique, qui relève du droit administratif, si tu veux, avec deux erreurs ou deux
falsifications.
J'en sais rien. Moi, j'ai un enregistrement audio que je relaierai dans les documents. Fait et Documents apparaître dans ma nouvelle série qui va s'appeler où il y aura toutes les réponses aux questions que tu te poses, qui va s'appeler le talentueux Monsieur Trogneux, en référence au talentueux Monsieur Ripley. Et donc dans cette série qui sera la quatrième saison du vrai visage d'Emmanuel Macron, donc le talentueux Monsieur Trogneux apparaître. Effectivement, nous reproduirons cet audio qui prouve qu'il y avait effectivement un problème à l'état civil, à la mairie d'Amiens, et que Natacha Ray, dans cette affaire de diffamation sur laquelle communique beaucoup l'Élysée pour dire on poursuit en diffamation, en vérité, c'est pas dit du tout que l'Élysée gagne.
D'accord. Alors, on va passer... à une autre question sur le docteur Bui. Voilà, un personnage un peu énigmatique, chirurgien, il travaille à l'hôpital américain. Ce docteur Bui, qui est spécialiste des transformations identitaires et qui a été le chirurgien esthétique de Brigitte Macron, il a reçu la Légion d'honneur, bizarrement. Est-ce que tu es au courant? Voilà. Expert, voilà, vous voyez sur l'écran, expert des opérations de changement de sexe, a opéré Brigitte Macron. Voilà, qui est exactement ce personnage? Et en effet, qu'est-ce qu'il a fait avec Madame Macron, ou est-ce que voilà, est-ce qu'ils se connaissent bien aussi? Parle-nous-en de ce docteur Buy.
Alors, on a consacré une double page à ce qu'on appelle la piste Patrick Buy. Alors, en fait, qui est une histoire assez intéressante. Si on la résume, c'est très simple. À l'été 2019, Brigitte Macron a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par le docteur Patrick Buy, qui est le plus grand spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre du transsexualisme. Voilà, ça c'est factuel. Brigitte a été opérée à l'été 2019 à l'hôpital américain de Neuilly par le docteur Patrick Buy, spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre du transsexualisme.
Est-ce qu'ils se sont connus seulement en 2019 ou avant déjà ?
Alors, en 2023, il s'est vu remettre effectivement la Légion d'honneur. Alors, ce qui est plus important, et ce qui me semble encore plus intéressant, c'est comment cette information a fuité. Cette information, en fait, a fuité à un moment où les Macron voulaient se débarrasser de Michel Marchand, puisqu'il était sorti une biographie extrêmement dérangeante de Michel Marchand.
Pour ceux qui la connaissent.
Qui est la patronne de Best Image et qui s'occupe de la gestion de l'image du couple présidentiel. Hein, c'est à elle qu'on doit toutes ces fameuses couvertures de Paris Match pendant la campagne 2016-2017. Quand vous regardez sur Internet des photos de Brigitte, vous regardez bien en dessous, elles sont créditées en général Best Image, même si depuis le marché a été ouvert à la concurrence, mais l'immense majorité des photos de Brigitte sont brandées Best Image, donc de l'agence de Michel Marchand. Or, les Macron ont pensé, à un moment donné, prendre leur distance avec Michel Marchand à la suite d'une biographie extrêmement dérangeante, signée par un journaliste du Parisien qui s'appelle Jean-Michel de Cugy, qui s'appelait Mimi, où il y avait des informations effectivement très dérangeantes pour Michel Marchand. Et à ce moment-là, en fait, Michel Marchand les a fait chanter et a fait fuiter dans Closer cet article qui rapportait une opération de Brigitte à l'hôpital américain de Neuilly par un docteur qui cite toujours Victor Hugo. C'était ça l'information. Et la citation était « Chair de la femme, argile idéale ». Ce qui était très bizarre. Et en fait, Brigitte Macron, bizarrement, a poursuivi Closer et l'a fait condamner pour atteinte à la vie privée. Et moi, j'avais jamais compris pourquoi cet article qui rapportait une opération de chirurgie esthétique avait tellement dérangé Brigitte Macron. Et en fait, quand on googlise la phrase de Victor Hugo qui est donnée, le vers de Victor Hugo qui est donné, « Chair de la femme, argile idéale », on découvre en fait une interview de Paris Match où le docteur Patrick Buy cite ce vers. Voilà. Et donc en fait, ce vers permettait d'identifier effectivement ce docteur Patrick Buy qui est, je le répète, le spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre du transsexualisme. Donc cette information, donc en vérité, ce que je veux dire par là, c'est que 2 ans avant la sortie de l'enquête de Faits et Documents et de Natacha Ray, le morceau était déjà sorti et c'était Michel Marchand qui avait balancé Brigitte via Closer. Donc en fait, c'est pour dire que en fait, il y a quand même beaucoup d'éléments en sens ouverte. Et là, d'ailleurs, dans cette phase d'officialisation qu'on est en train de vivre, on voit que vient d'être officialisé que c'est la sœur du docteur Patrick Buy, qui est une couturière très connue, qui s'appelle Barbara Buy.
Et qui a fait aussi la robe de mariée de Madame Macron.
Qui avait fait la robe de mariée du mariage de 2007. C'est assez intéressant.
Donc ça veut dire que docteur Buy, qui est spécialiste des changements, enfin des transidentités, connaissait au moins depuis 2007 Brigitte entre guillemets Macron.
C'est des informations qui sortent, qui sont à prendre pour ce qu'elles sont. Après,
d'accord.
Tirer des plans sur la comète, etc. Ça me semble un peu hâtif, mais en tout cas l'info est sympa et c'est marrant qu'elle sorte dans Closer maintenant, alors que nous on est passé à l'affirmatif et que tout est maintenant très connu sur ce qu'on appelle effectivement la piste Patrick Buis, qui est vraiment une info très sympa du dossier, quoi. Voilà. Question Allô suivante.
Donc il a eu cette Légion d'honneur. C'est quand même pas rien. Comment c'est passé? On sait un peu qui était invité ce soir-là. Est-ce que c'était à l'Élysée peut-être, comme pour la Légion d'honneur de Bernard Arnault?
Il y a eu que le journal officiel. Il n'y a pas eu de couverture presse. Ça n'a pas été couvert par la presse.
Donc du coup, la question que les gens se posent, c'est qui est devenue Brigitte, la vraie Brigitte.
Alors ça, à mon avis, c'est le point central du dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à mon avis, parce qu'en fait, moi, je vais te dire franchement ce que j'en pense. Vas-y. Je pense que dans le dossier Trump, je trouve que c'est complètement anormal que Trump ait conservé un dossier sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que c'est que la vie de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, enfin, face de Maurice Barrès, que j'aime beaucoup, qui dit qu'il faut tout avoir pour tout mépriser. Et Trump, il a tout eu, et c'est pour ça qu'il peut se permettre d'être aussi combatif et aussi libre et aussi peu soucieux du quand dira-t-on. Et Trump, quand il a tout eu, il a tout vu. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, il a fréquenté des personnages très sulfureux, comme un avocat qui s'appelait Roy Cohn, qui a été suspecté d'être à la tête ou de participer à des réseaux de prostitution de très jeunes hommes. Il a connu Epstein, etc. Enfin, vraiment, il en a vu des vertes et des pas mûres. Et on voit pas bien pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il aurait trouvé de très étonnant dans le parcours d'Emmanuel Macron. Alors effectivement, il y a cette rencontre à 14 ans qui peut paraître bizarre. D'ailleurs, je signale, à mettre au crédit d'Emmanuel Anison, je reviens là-dessus, que c'est la première fois qu'une journaliste écrit noir sur blanc, puisqu'elle le dit dans l'interview qu'elle donne à Libération dans le cadre de la promotion de son livre, qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lors de la rencontre. Hein, et je c'est à mettre au crédit d'Emmanuel Anison, c'est la première fois dans la presse depuis 9 ans que ce couple est médiatisé, c'est-à-dire depuis 2015, c'est la première fois que dans un quotidien de la presse nationale est écrit noir sur blanc qu'Emmanuel Macron avait 14 ans. Mais bon, ça, comme je dis, Trump, il a connu Epstein, il a connu Roy Cohn, ça, à la limite, même le transsexualisme. Non, mais le transsexualisme, même. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis que pour moi, Jean-Michel Trogneux et 14 ans, c'est le starter pack, si tu veux. Parce que
je rajoute juste que Myriam Palomba l'avait aussi dit à TPMP. Voilà, pour mettre dans le contexte.
Voilà, donc Jean-Michel Trogneux et 14 ans, c'est le starter pack. Ensuite, effectivement, on a un énorme problème. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé avec Emmanuel Anison, et souvent on se disait que, de par elle, ce qu'elle avait pu faire, investiguer, rencontrer, etc. Et depuis moi, ce que j'avais pu faire comme enquête, c'était encore plus dur, en fait, d'enquêter bien sur sûr Brigitte Trogneux que sur Jean-Michel Trogneux. C'est-à-dire toi, que là, c'est le mur intégral.
Pour toi, d'après toi, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Brigitte?
Ben, en fait, tu verras, parce que je publie ça dans la prochaine saison, donc qui s'appelle Le Talentueux Monsieur Trogneux. Mais en fait, quand on assemble tous les bouts, se dégage très très nettement une hypothèse qui sera formulée dans Faits et Documents, effectivement, au conditionnel, parce que pour l'heure, ce n'est qu'une hypothèse.
Oui, au conditionnel, c'est qu'une hypothèse. Vas-y.
Voilà. Non, mais je veux pas spoiler, voilà, je veux pas spoiler.
Bon, voilà. Alors, il y a une chose que... très bien, on va voir. C'est quand sort le fait document, pour le coup? Très vite?
Alors, on est en plein bouclage. Bon. On est en plein bouclage. Alors d'ailleurs, je voulais dire que, en fait, d'ailleurs, pour revenir encore sur l'enquête à proprement parler, d'ailleurs, j'avais dit, j'ai dit à Emmanuel Anison, mais à d'autres confrères, en fait, il y a un dossier Trogneux comprenant des photos, donc dossier Jean-Michel Trogneux, comprenant des informations biographiques et des photos que j'ai localisées en région parisienne. Les détenteurs de ce dossier, maintenant ça fait un an, refusent de me le fournir alors qu'il est, selon le code du patrimoine, il est accessible à tout citoyen français.
D'accord.
Alors, je le répète, c'est un dossier biographique, un dossier comprenant des informations biographiques et des photos de Jean-Michel Trogneux et qui sont relatifs à son âge.
J'ai une question.
Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Donc, ils sont relatifs à sa période où il est à l'âge adulte. Moi, il y a déjà 5 confrères, 2 de l'audiovisuel, Emmanuel Hizon, plus 2 autres confrères, plutôt chevronnés, etc. Tous me disent qu'ils craignent les représailles. Et personne, pour l'instant, n'a voulu y aller. Donc moi, je suis, comme ce dossier m'est accessible, c'est moi qui ai contre-attaqué devant les autorités compétentes pour récupérer ce dossier. Donc attends, laisse-moi finir. Donc j'attends toujours la réponse. Donc si la réponse est favorable et qu'on a le document, on le publie dans les documents. Et sinon, on révélera où se trouve ce dossier et on appellera effectivement les citoyens français qui ont tous le droit de consulter ce dossier, de faire le siège chez le détenteur du dossier Trogneux. Donc tout ça est effectivement à suivre dans les documents. Voilà.
Alors, j'ai une question encore. J'en ai plein, sache-le. Donc sachez, j'ai plein de questions. C'est pas fini encore. On n'essaie pas fini de rester. Jean-Jacques Trogneux, montrez-la, Jean-Jacques Trogneux. Allez. Montrez à ma place, tiens, montrez la photo de Jean-Jacques Trogneux, la régie. Allez. Jean-Jacques Trogneux, voilà, ça, c'est son LinkedIn. Voilà, c'est le scan de son LinkedIn. Il y a une particularité, c'est qu'il ressemble à Emmanuel Macron. Cher Xavier, qui est exactement Jean-Jacques Trogneux ?
Alors, Jean-Jacques Trogneux, c'est un personnage très intéressant parce que.
Montrez Xavier, Montrez Xavier.
Tout ce qui est relatif à Jean-Michel Trogneux, il a été effacé de tout ce qu'on peut lire sur Brigitte. J'avais déjà expliqué ça, c'est-à-dire que les biographies insistaient beaucoup sur le côté famille des Trogneux parce que ça apportait un ancrage local et puis le côté familial, effectivement. Et lui avait été effacé. Et c'est nous qui l'avons retrouvé. Et puis, on a pu établir par la suite qu'il était effectivement le fils de Jean-Michel Trogneux. Le fils que Jean-Michel Trogneux a eu en 1982 de son union avec une femme qui s'appelle Véronique Dreux.
D'accord.
Cette femme, Véronique Dreux, on l'a contactée. Alors, elle refuse habituellement de répondre aux journalistes. Elle a refusé de répondre à Emmanuel Hizon, mais elle a accepté de nous livrer un entretien de 30 minutes, donc qu'on rapportera dans le talentueux Monsieur Trogneux. Et alors, ce qui est très étrange dans cette interview, pour en donner quelques extraits, si je résume l'entretien de 30 minutes que j'ai pu avoir avec Véronique Dreux, je lui dis « donnez-moi des photos de vous avec Jean-Michel Trogneux ». Et moi, je débunk l'affaire. Normalement, ça ne doit pas poser de problème, puisque officiellement, Véronique Dreux, qui a quitté Jean-Michel Trogneux en 85, est donc la belle-sœur de Brigitte, et elle est sortie de la famille Trogneux en 85, donc il y a maintenant 40 ans, qui a 39 ans. Donc normalement, elle doit me dire « écoutez, oui, j'ai été marié au frère de Brigitte, tenez, j'ai une photo, et puis basta, on n'en discute plus ». Bon, le résumé de l'échange, c'est je lui dis, bon, est-ce que vous avez des photos de vous avec Jean-Michel Trogneux? Elle me répond, oui, j'ai ça. Je lui dis, vous pouvez me les donner? Elle me répond, ah, mais faut que je demande à Brigitte. Donc, on se demande bien, c'est quoi le problème? Et arrive un moment dans la conversation où, subitement, elle se met à me parler d'Emmanuel Macron. Alors que je ne l'ai pas du tout branché, ni sur son fils, donc Jean-Jacques, etc. Elle se met à me parler d'Emmanuel Macron en m'assurant qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a connu Emmanuel Macron que très tardivement au mariage de sa fille, donc la sœur de Jean-Jacques Trogneux. On comprend pas bien pourquoi, elle lui dit oui, pourquoi Macron serait allé à ce mariage, mais pourquoi elle tenait à ce point-là à m'assurer qu'elle n'avait pas connu Emmanuel Macron dans son enfance. Donc tout ça est très nébuleux. Alors au sujet de Jean-Jacques Trogneux, d'ailleurs c'est très intéressant, puisqu'une des premières un des premiers éléments qui avait vraiment contribué à confirmer l'intuition de Natacha Ray était un échange que j'avais eu avec un ami d'amis qui a été le colocataire de Jean-Jacques Trogneux, qui a été un des meilleurs amis de Jean-Jacques Trogneux et qui a vécu chez Jean-Jacques Trogneux et sa mère, Véronique Dreux, au début des années 2000, pendant ses études à Amiens. Et lui m'avait dit, je lui avais dit, mais alors, t'as vécu chez Jean-Jacques Trogneux, chez Véronique Dreux. C'est-à-dire que le type avait vécu techniquement chez la femme de Jean-Michel Trogneux et chez son fils. Et je lui avais dit, tu l'as déjà vu, donc Jean-Michel Trogneux. Donc là, je me disais, ça va être assez simple. Soit le mec va me dire oui, soit non. Et le type m'avait assuré, non, j'ai jamais vu Jean-Michel Trogneux. Maintenant que tu me le dis, le père de Jean-Jacques était un tabou. Je l'ai jamais vu, etc., etc. Enfin, il était. Alors, je lui posais la question. À l'époque, c'était encore hypothétique. Je lui dis, mais est-ce que pour toi, Brigitte pourrait être Jean-Michel Trogneux, etc. Il était assez intéressé. Et là, il me dit, ah, maintenant que tu m'en parles, Jean-Jacques me parlait toujours d'un jeune politicien qui allait percer. Donc là, on est vers 2004. Et il me dit, il parlait toujours d'un jeune politicien qui allait percer. Et maintenant, je comprends qu'il s'agissait de Macron. Et donc, on avait eu cette conversation assez sympa. Il m'avait rappelé 2 heures après sur un ton très, très saccadé en me disant « Non, Jean-Michel Trogneux existe, c'est un petit gros. » D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a entendu l'expression du petit gros. « C'est un petit gros. » On allait souvent chez lui au 14 rue des Vergeaux pour faire la fête. Donc, il avait changé complètement de version. Et à ce moment-là, il m'avait dit « D'ailleurs, il a tenu une bijouterie à Toulon. » Or, cette histoire de bijouterie à Toulon qu'on avait relayée était en fait une information qui était une erreur. En fait, Jean-Michel Trogneux avait jamais eu de bijouterie à Toulon. En fait, c'est une erreur de numérisation d'un document sur Google. Et en fait, mais nous, on l'avait reproduit dans les documents, ce qu'on appelle une erreur en journalisme. Et en fait, après, quand j'ai compris que c'était une erreur, j'ai compris que en fait, cet ami très proche de Jean-Jacques Trogneux avait agi sur ordre quelque part. Et le but, en fait, de ce deuxième appel, qui était de démentir et surtout de nous faire perdre du temps. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que l'Élysée cherchait essentiellement à gagner du temps.
Mais alors voilà, du coup, si Jean-Jacques Trogneux est le fils de Jean-Michel Trogneux, comment est-ce qu'on explique la ressemblance entre Jean-Jacques Trogneux et Emmanuel Macron ?
Ben ça, tu vois, c'est un des grands mystères du dossier. D'ailleurs, à peu près tous les gens qui découvrent le visage de Jacques Trogneux me demandent, mais c'est qui ? C'est le frère de Macron.
Ah oui. De façon, on dirait son frère. Il se ressemble énormément.
Voilà. Alors c'est une histoire de frère, décidément.
Donc quoi, c'est-à-dire que Macron est de la famille à la base de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Trogneux, etc.
Écoute, j'en sais rien, tu vois, là tu ouvres une porte qui pourrait effectivement justifier que Donald Trump ait conservé un dossier, par exemple. Tu vois, quand je te disais qu'il avait tout vu, mais que ça peut-être, parce que c'est forcément quelque chose qu'il a encore jamais vu. Et pour surprendre Trump, faut quand même se lever tôt le matin. Et là, justement, tu pointes une piste qui n'est qu'une piste visuelle, qui pose des questions, n'importe qui voit ça se pose une question, sans être défiant. Ah oui. ni complotiste ou rien.
C'est le vrai scan du LinkedIn de Jean-Jacques Trogneux, neveu d'ailleurs, de Brigitte Macron.
Ça pourrait faire l'objet d'un radio-trottoir, c'est-à-dire que tu interroges des gens dans la rue et tu montres des photos de Jean-Jacques Trogneux et tu demandes aux gens qui est cet individu et tu verrais les gens dans la rue te répondre naturellement « Je ne sais pas, ça doit être le frère d'Emmanuel Macron ». Ce serait assez marrant à faire.
Oui, mais théoriquement, bien sûr, parce que théoriquement, Jean-Jacques Trogneux et Emmanuel Macron ne doivent pas être liés par le sang. Alors comment expliquer ? Théoriquement, non. Donc comment expliquer qu'ils se ressemblent ainsi ? Est-ce que les Macron et les Trogneux, il faut se dire, est-ce que c'est pas une même et unique famille ?
Mais je te dis, il y a des choses très bizarres qu'on a déjà relevées. Alors au sujet de la famille de Macron, c'est exactement comme au niveau des Trogneux et des Ozières. C'est-à-dire, c'est simple, personne ne veut parler. Il y a un journaliste.
Remettez la photo de Jean-Jacques Trogneux. Remettez la photo de Jean-Jacques Trogneux pour que les gens voient. Voilà. Regardez, ça, c'est Jean-Jacques Trogneux.
Un confrère d'Emmanuel Anison qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Hervé Algalarondo, hein, qui était un cadre historique du Nouvel Observateur, qui avait fait un livre sur la jeunesse d'Emmanuel Macron, qui s'appelait « Deux jeunesses françaises ». Et il a fait ce livre sur la jeunesse d'Emmanuel Macron, et en fait, il a essayé de contacter les gens de la famille d'Emmanuel Macron. Il n'a jamais eu aucune réponse. Je rappelle qu'il n'y a aucune photo qui existe d'Emmanuel Macron jeune avec ses parents. C'est impossible. Et nous, quand on avait fait le mystère Brigitte Macron, on avait demandé effectivement pourquoi on n'a pas de photo de Macron jeune avec ses parents. Et en fait, la seule photo qui avait été capable de fournir la communication présidentielle, c'était une photo de classe de Macron, présentée comme une photo de classe de Macron à l'école primaire, mais jamais de photo avec les parents de Macron. Or, on a découvert que la personne qui nous est présentée comme la merde... Voilà, la personne qui nous est présentée, la personne qui nous est présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, qui est une dame qui s'appelle Françoise Noguès Macron, en fait, qui était médecin conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie, était en fait spécialisée dans le suivi des trans. Alors cette information a été donnée par un trans qui s'appelle Sylvain Télesphore, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale en 2018 et qui expliquait que dans le cadre de son changement de sexe, elle avait été suivie effectivement par le docteur Françoise Noguès Macron. Or, dans les articles relatifs au cas Sylvain Télesphore qu'on a pu retrouver, notamment publié dans Le Monde, je crois, en 2009, Sylvain Télesphore raconter effectivement, les journalistes donnaient la parole au médecin conseil à la Sécu, donc Françoise Noguès Macron, qui avait suivi Sylvain Télesphore, et elle révélait que elle parlait d'autres cas. Donc en fait, on peut vraiment considérer que la mère la personne qu'on nous a présentée comme la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès Macron, était spécialisée dans le suivi des personnes transgenres à la Caisse nationale d'assurance maladie.
J'ai une
question.
J'ai une autre bizarrerie, cher Xavier. Le père dit officiel biologique d'Emmanuel Macron s'appelle Jean-Michel Macron. Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Et la personne dont on dit qu'elle serait Brigitte Trogneux, on dit qu'elle est Jean-Michel Trogneux. Ça fait quand même un peu beaucoup de Jean-Michel.
Et le frère de Françoise Noguès, dont je viens de parler, s'appelait Jean-Michel Noguès.
Jean-Michel aussi. Hallucinant. Je comprends pas. C'est hasard. Tout le monde s'appelle Jean-Michel là-bas, dans cette famille.
Il y a un petit. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en plus, c'est pour ça que moi, je dis qu'à l'état civil, il faut faire attention à l'état civil. Macron est bien marié avec Brigitte Trogneux, parce que s'il était marié avec Jean-Michel Trogneux, alors ça voudrait dire que Jean-Michel Trogneux, c'est Jean-Michel Macron. Et là, faudrait pas confondre, parce que Jean-Michel Macron, c'est pas la femme d'Emmanuel Macron, c'est son père. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est assez touchy comme dossier. Donc là, si tu veux, quand tu commences à aborder les zones, effectivement, ce qu'on appelle des zones d'ombre, mais il y a d'autres zones d'ombre qui existent aussi. Il faut savoir que, par exemple, les Macron étaient très liés à Laurence Parisot. Laurence Parisot, quand elle prend la tête du MEDEF, elle propose la direction générale du MEDEF à Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron vient de sortir de l'ENA. Hein, je crois, on peut vérifier, c'était en 2005. Il vient de sortir de l'ENA. Pourquoi ce type qui a aucun vécu dans l'entreprise, qui est à peine sorti de l'ENA, on lui propose Laurence Parisot. Il se trouve que Laurence Parisot avait été très proche d'une femme qui était une femme très influente, qu'on a décrit comme sa coach et sa conseillère particulière, qui s'appelait Laprelle Tavera. Or, le père de cette Laprelle Tavera était le gynécologue d'Henriville, le quartier des Trogneux et des Macron à Amiens. C'est-à-dire que on a des connexions bizarres. C'est-à-dire, tu vois, c'est, et en fait, il y a des tas de choses comme ça qui remonte au passé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait un secret, on peut aussi essayer d'identifier, ça peut être un jeu, d'identifier les gens qui sont au courant du secret. Là, on a eu, par exemple, l'épisode Balkany, qui est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'épisode Balkany? C'est qu'on nous dit Brigitte avait une bande au Touquet. Donc, il y avait la bande à Brigitte. Ah, ça, c'est dans les biographies officielles de Brigitte. Il y avait une bande à Brigitte où il y avait Sardou et Balkany. Bon, quand on regarde il suffit de regarder les dates de naissance de Sardou, de Michel Sardou et de Patrick Balkany pour s'apercevoir qu'ils sont de la génération non pas de Brigitte Trogneux, mais de Jean-Michel Trogneux. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand est lancée la phase Natacha Ray en décembre 2021, une des premières qui relaie l'affaire Jean-Michel Trogneux sur les réseaux sociaux en relayant la vidéo de Natacha Ray, c'est la femme de Patrick Balkany, Isabelle Smadja Balkany. Or, là, Patrick Balkany est passé sur TPMP en disant « Oui, moi j'ai connu Brigitte ». Alors c'est, en plus, il le dit de façon vraiment pas crédible. Hein. On voit bien que bon, il est un peu qu'il est un peu forcé, quoi. Il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur, si tu veux. Et il le dit. Et en fait, dans les commentaires sur X, les gens posent la question à Isabelle Balkany, qui dit oh, mais en fait, il s'en rappelle pas du tout, mort de rire, etc. Et en fait, ça c'est quand même un fait qui interroge, surtout quand on voit ce qui est advenu de Michel Sardou, qui fait une sorte de revival. Sous Macron, hein, un peu comme Charles Trenet sous Jack Lang, d'ailleurs, il y a peut-être un parallèle, et Patrick Balkany qu'on met en prison et qu'on sort de prison. De la même façon, il y a un épisode qui est très très intéressant, et d'ailleurs c'est peut-être cet épisode qui m'inspire le titre du talentueux Monsieur Trogneux. C'est un épisode qui a été raconté, qui se passe le 8 mars 2015, le jour de la journée de la femme, à Bercy, hein, où est organisée une espèce de réception, et vient Anne Méo, qui est la papesse de la communication corporate à Paris. C'est-à-dire, elle s'occupe de la communication du CAC 40, c'est un peu une Michel Marchand chic, si tu veux, elle est très proche de Pinault, etc. Bon. Et il se trouve que Anne Méo est née en 52, donc elle est de la même génération que Brigitte Trogneux, qu'elle a une maison au Touquet, donc elle est souvent allée au Touquet, qui est une ville dont elle a été conseillère municipale et où elle anime un prix littéraire. Or, les Trogneux sont connus pour être très implantés au Touquet. Et à ce moment-là, Macron lui dit, avant qu'elle parte, lui dit « Attends, il faut que tu salues quelqu'un, une vieille connaissance, etc. » Et arrive Brigitte, qui saute dans les bras d'Anne Méo et lui dit « Oh, Brigitte, Anne, tu te rappelles Donc Brigitte saute dans les bras d'Anne Méo et lui dit « Anne, tu te rappelles notre jeunesse quand on allait dans tel bar, dans telle boîte de nuit, etc. » En tout cas, et Anne Méo fait un pas de côté et elle est polie, tu vois, donc elle va pas lui dire « Mais je sais pas qui vous êtes », mais elle a comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche.
C'est-à-dire que Anne Méo ne reconnaît pas la Brigitte Trogneux.
Elle dit un truc bizarre. Ensuite, les journalistes, parce que cette scène a lieu devant témoins, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que j'appelle ça le talentueux Monsieur Trogneux. C'est-à-dire que c'est toujours devant témoins. Donc ensuite, les journalistes vont se dire ah bah tiens, on fait des biographies de Brigitte, on n'a qu'à aller interviewer Anne Méo, puisque Anne Méo devant témoin, Brigitte a dit que c'était une de ses copines d'enfance. Or, au bout d'un moment, Anne Méo va finir par lâcher le morceau. Elle dit « Écoutez, moi, cette personne, je l'ai vue la première fois le 8 mars 2015 à Bercy. »
Elle dit ça à qui? Voilà.
Elle dit ça à deux journalistes dans un bouquin tout à fait autorisé. J'ai mis la source dans les documents et sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc en fait, il y a quand même ce truc de mettre les autres dans la sauce pour inventer un passé à Brigitte, quoi. C'est vraiment très très intéressant comme fonctionnement, et c'est un fonctionnement de manipulation qu'a toujours eu ce couple. De la même façon, Macron, quand il était jeune, entre sa sortie de l'ENA et 2012, commençait, insérait toujours dans les conversations, dans les dîners en ville, pendant mes cours à Normale Sup. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tous les journalistes ont écrit qu'il avait fait Normale Sup, et il s'est avéré que c'était faux. Et des années plus tard, Jean-Pierre Jouyet a été interrogé là-dessus, Et il a dit, Jean-Pierre Jouy, qui était secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, fonctionnaire qui était ministre de Fillon, etc., très proche de François Hollande, a déclaré, mais j'ai sincèrement cru qu'Emmanuel Macron était normalien. Donc en fait, c'est un vrai couple. C'est quand même un vrai couple de manipulateurs. C'est le message que je veux faire passer. C'est un vrai couple de manipulateurs. On peut pas traiter Brigitte sans Macron et Macron sans Brigitte. Hein, c'est la phrase de François Hollande. Ils sont leurs racines réciproques.
D'accord.
Ils sont leurs racines réciproques. Hein. J'ai jamais oublié cette phrase-là. Donc c'est un vrai couple et avec un énorme problème effectivement lié à la vie privée, lié au passé, qui, à mon avis, explique la politique menée par Emmanuel Macron. D'ailleurs, Candace Owen, dans sa vidéo, insiste bien sur le blackmail, sur le chantage. Et il est évident que toutes les décisions prises par Emmanuel Macron depuis 2012, puisqu'il était déjà, en fait, c'était le quinquennat de François Hollande était un cheval de Troie pour Emmanuel Macron.
Alors on va continuer. Alors on va continuer, Charles Xavier.
Et il est évident que c'est aussi un dossier d'intelligence économique. C'est pas que seulement un dossier de vie privée. Comme on me le reproche, voilà. Et effectivement, il y a effectivement un lien très profond entre l'affaire Brigitte et le pacte de corruption.
Alors, on va continuer, mais avant ça, des autres petites annonces.
Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important, et on sait que pour vous aussi. Alors, faites un don à GPTV.
Je vis de quoi ? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout.
Moi, je pense pas.
Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre.
Tu vas payer pour ton insolence.
Merci à vous d'être si nombreux. Rien que sur YouTube, vous êtes plus de 20 000. Plus de 20 000 en même temps. N'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, nous avons ce fameux Tipeee Stream. Vous cliquez sur le lien. Allez-y. Et on continue cette discussion passionnante que l'on a avec notre ami Xavier Poussard. Alors, j'ai une question, parce que là, quand même, voilà, on essaie de cacher quelque chose, on a quand même mis en avant un couple. Est-ce que ce couple de... cette famille Trogneux aussi, quelle est son influence ? Tiens, quelle est l'influence de cette famille Trogneux ? Et y a-t-il un lien, là, faut le dire, avec les loges ?
Moi, honnêtement, à niveau, je sais bien qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce sujet-là. C'est pas des sujets qui m'intéressent pas d'ailleurs, puisque je m'y intéresse et je m'y intéresse suffisamment. Moi, honnêtement, j'ai un contact en franc-maçonnerie très implanté en Picardie. Après, la franc-maçonnerie, ça veut tout dire et rien dire. Et honnêtement, honnêtement, il y a pas de lien.
Oui, mais non, mais alors peut-être pas la franc-maçonnerie, mais regarde, je vais prendre un exemple. On a, tu l'as dit.
Moi, je sais qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui s'éclatent avec ça, mais à un moment donné, il faut sortir un document. Je veux dire, on n'est pas, c'est pas du tout la même sociologie, c'est pas du tout les mêmes réseaux. Enfin,
quels sont les réseaux sens, quels sont ces réseaux? Parce que comment on peut expliquer l'ascension fulgurante
UDF, Catome et les enfants à la Providence. Enfin, on n'est pas du tout sur une sociologie de franc-maçonnerie de type radical socialiste, etc. Après, on peut par exemple au niveau de la franc-maçonnerie radical socialiste se demander pourquoi un type comme Jean-Michel Baylet reste proche des Macron, quand on sait que Jean-Michel Baylet par exemple a eu des accusations de pédophilie, quand on sait les affaires relatives effectivement à la franc-maçonnerie toulousaine, etc. Le problème, je l'ai expliqué dans Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie, c'est-à-dire qu'en fait, qui est une enquête de renseignement d'ambiance relative à l'entourage des Macron, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on fait l'entourage des Macron et on remonte dans les biographies pour faire du renseignement d'ambiance. Et on découvre, en fait, dans cette enquête qui s'appelle Jeunesse, éducation, sexualité en Macronie, qui a un énorme tropisme autour des violences sexuelles, non seulement autour des violences sexuelles, mais de la pédocriminalité et aussi de l'inceste dans l'entourage des Macron. Et ce qui est très intéressant dans les milieux pédocriminels, c'est que ce sont des milieux qui irradient par définition. Il y a c'est vraiment transpartisan, qui irradie tout le champ social et tout le champ politique. Et je pense que c'est bien plus de ce côté-là qu'il faut aller creuser pour comprendre qui sont les Macron, plutôt que de chercher une appartenance maçonnique chez les Trogneux, alors que les Trogneux, pour connaître un peu la franc-maçonnerie, les Trogneux ils ont rien de maçon, quoi. C'est des conneries.
Qu'est-ce qui fait qu'on a créé ce couple, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher
du côté des réseaux de pouvoir. Ce qu'il faut aller chercher, c'est effectivement l'influence de Jean-Marc Borello à l'époque où il le recrute à Sciences Po. Il y a quelque chose qui a pas été creusé du côté de Richard Descoings, qui est une personnalité qui a quand même des similitudes énormes avec Emmanuel Macron. L'influence de Jean-Marc Borello qui repère Emmanuel Macron à Sciences Po, Jean-Marc Borello dont le nom est apparu dans des affaires de stup et des affaires pédocriminelles d'une grande gravité. J'ai consacré le portrait de référence à Monsieur Jean-Marc Borello, qui est un des hommes les plus importants de la Macronie, qui est une personnalité que personne ne connaît, qui est une personnalité les plus importantes de la Macronie, qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui gère ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est ni de l'économie ni sociale ni solidaire, et qui est en fait la privatisation l'État providence sous couvert d'associatif et de social. Et ça, c'est là, il y a un vrai sujet, par exemple, que les journalistes pourraient creuser. Moi, j'ai fait un dossier complet. Il y a des tas de pistes à creuser. Moi, c'est pareil. Je me demande. Alors, tu vois, je me disais peut-être qu'ils iront pas sur Brigitte, mais peut-être qu'au moins sur Jean-Marc Borello, où il y a un côté économique en surface, il pourrait y aller. Bon, visiblement, la presse française est complètement amorphe. Donc voilà. Donc il y a quand même des personnalités très étranges, très interlopes, qui gravitent autour du coup présidentiel. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant de chercher de ce côté-là plutôt que de la simple maçonnerie au sens classique du terme, etc. Même si il peut y avoir dans ces réseaux-là des personnalités qui effectivement sont liés à la franc-maçonnerie. Mais ce que je veux dire, c'est que leur lien à la franc-maçonnerie n'est pas déterminant, ce n'est pas surdéterminant en l'occurrence.
Donc, pour toi, c'est plus Borello qui a permis peut-être à Emmanuel Macron d'aller chez Rothschild alors qu'il n'avait pas les capacités d'être directeur associé de chez Rothschild.
Non, je sais pas, je connais pas précisément, voilà. Il y a des choses bizarres, effectivement, sur le passage d'Emmanuel Macron chez Rothschild. Sur le passage d'Emmanuel Macron chez Rothschild, il y a plusieurs choses qui ont été dites et écrites. Là, je revois au pacte de corruption. Il y a une promotion à l'intérieur de la banque Rothschild qui, effectivement, ressemble à une promotion familiale, selon des témoins qui disent qu'il avait effectivement pas le niveau. Voilà, donc, mais tout est comme ça dans le parcours d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il entre à l'ENA, ça a été rapporté par deux journalistes du Monde qui s'appellent Davet et L'Homme, alors qu'il sèche littéralement la question qui lui est posée à l'oral de l'ENA. D'ailleurs, ça devrait poser question à Monsieur Éric Zemmour, qui lui a raté l'ENA à l'oral, alors que Éric Zemmour est réputé être plutôt bon à l'oral. Donc lui, Emmanuel Macron n'a pas répondu à la question qui était posée, il a séché et il a été reçu quand même. D'ailleurs, Davet et L'Homme disent bien qu'il y a très peu de gens qui veulent témoigner. C'est-à-dire qu'on est toujours face à ce problème, par quel bout on prend la biographie, c'est-à-dire que personne ne veut parler. Il y a une sorte d'omerta, hein, c'est ça qu'il faut,
alors,
qu'il faut
comprendre. Est-ce qu'il y a...
Donc il rentre à l'ENA sans avoir séché la question qui lui était posée à l'oral, et quand il sort... Il sort dans la botte, mais il y a une fronde contre ce classement, donc qui classe Macron dans la botte, qu'on va appeler la fronde des mutins de Sangor. Et à ce moment-là, l'affaire va être portée devant le Conseil d'État, qui annule le classement de cette promotion. Et c'est la seule promotion dans l'histoire de l'ENA dont le classement a été annulé. Or, c'est ce classement qui, précisément, permettait à Emmanuel Macron d'entrer à l'inspection générale des finances et qui allait lui offrir, effectivement, parce qu'une fois qu'on a l'inspection générale des finances, on a toutes les portes qui s'ouvrent. Hein, c'est-à-dire, Conseil d'État, inspection générale des finances.
Cher Xavier, est-ce que l'histoire des Trogneux a un lien avec le contenu du coffre disparu, rappelle-toi, à l'époque de l'affaire Alexandre Benalla?
Bah écoute, j'en sais rien. Voilà, je te le dis clairement, je ne suis pas en contact avec Alexandre Benalla. Voilà, donc ensuite, il y a effectivement, mais ça fait partie de cette biographie où on a à la fois des gros silences de toutes parts, une ambiance très bizarre avec effectivement ce coffre-fort d'Alexandre Benalla qui a précédé cette histoire du dossier Trump, etc. Donc tout le monde voit bien, il y a quand même une atmosphère épouvantable autour de ce couple qui s'est installé à l'Élysée en 2017 et au cœur nucléaire du pouvoir français depuis 2007. Hein, ça fait 17 ans que ça dure. Hein, c'est faut quand même voilà, on a quand même un peu de profondeur. Donc ça fait quand même 17 ans que ça dure que ce couple infernal est installé au cœur de l'élite française et puis au sommet du pouvoir français, avec une atmosphère épouvantable faite de suspicions autour d'un coffre-fort, d'un dossier conservé par un président américain, de buzz international sur le transsexualisme, de d'histoire qui est quand même louche, qui mériterait d'être expliquée, c'est-à-dire comment un individu ayant connu un élève à 14 ans dans une institution jésuite a pu être ensuite promu au sein de l'institution jésuite, dans l'établissement le plus prestigieux de cette institution, qui est le lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris, qu'on appelle Franklin, et se retrouver à former les rejetons du Gotha français, notamment les enfants de Bernard Arnault. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et tout le monde voit très bien qu'il y a un énorme bug. Et d'ailleurs, c'est très étrange que Candace Owen dise... C'est ça la question que devraient se poser les journalistes français, parce que là, on va vers le crash de la presse française, en vérité, puisque visiblement, Donald Trump a décidé de se le payer. Hein. Donc, on va vers le crash de la presse française. C'est-à-dire quand Candace Owen dit « hors assassinat politique », ça veut dire « en dehors de Kennedy », dans la tête d'un Américain. C'est-à-dire « en dehors de Kennedy », il n'y a pas de plus gros scandale politique que l'affaire Brigitte Jean-Michel. Elle l'a pas improvisé. Je veux dire, c'est un plan comme du plan Trump qui envoie un signal. Et donc, ça confirme, moi, mon intuition, que Trump a vu dans ce dossier et qu'on prenait des informations classifiées dont on peut penser qu'elles ont été récoltées par des services de renseignement américains qui sont pas réputés pour être les plus incompétents du monde, hein, c'est-à-dire la CIA, la NSA, qui explique effectivement que toute la politique menée par Emmanuel Macron aille contre les intérêts français. Toute la politique, avec un alignement total sur l'atlantisme, etc., etc. Donc, la presse française, au lieu de faire comme les trois petits singes, de se boucher les oreilles, de se boucher le nez, de se masquer les yeux, devrait quand même se dire il y a un problème. Et moi, c'est pour ça que je dis au patron du groupe Le Monde, Monsieur Louis Dreyfus, qui est le patron d'Emmanuel Anison, je lui dis convoquez dans votre bureau Emmanuel Anison et demandez-lui ce qu'elle a vu à Amiens. Et en fonction, regardez les pièces et jugez si il n'y a pas, et c'est pas encore le moment, de sauver l'honneur du journalisme en France. Et je précise que moi, quand j'ai fait le mystère Brigitte Macron dans la phase initiale, ça suivait effectivement l'affaire Duhamel, puisque là je m'étais dit, Louis Dreyfus, le patron du Monde, puisque c'est lui qui a relayé l'affaire Duhamel, puisqu'il est le compagnon de Camille Kouchner. Hein, il est compagnon de Camille Kouchner. Donc, le groupe Le Monde s'est vraiment mis en marche de bataille sur l'affaire Duhamel. L'affaire Duhamel a fait péter Le Siècle, l'Institut Montaigne et Sciences Po. Donc moi, je me suis dit, enfin, on a un patron de presse en France qui a compris qu'il y avait un problème. Puis en plus, Olivier Duhamel était très proche de Brigitte, puisqu'il y a eu un épisode qui a été rapporté dans la presse, qui s'appelle le déjeuner de Sciences Po, où Édouard Philippe a été choisi comme Premier ministre au début du premier quinquennat, lors d'un déjeuner organisé à Sciences Po, auquel participaient 4 personnes, dont Olivier Duhamel et Brigitte. Brigitte étant apparue comme très proche d'Olivier Duhamel. On se demande c'est quoi le point commun entre Olivier Duhamel, personnalité de l'intelligentsia parisienne, germanopratine, universitaire, etc., et Brigitte de la chocolaterie Trogneux à Amiens. Et il y en a pas 1000 des points communs, il y en a un, c'est 14 ans. Voilà, c'est tout. Voilà, donc moi, c'est pour ça que quand j'ai lancé Brigitte, je me suis dit, au moins Louis Dreyfus, Monsieur Dreyfus a l'air d'avoir compris quelque chose. Donc là, je lui dis, faudrait pas s'arrêter en si bon chemin, et peut-être vous avez une journaliste de votre groupe qui est très courageuse, qui travaille vraiment très bien, elle n'a pas pu aller au bout de son enquête, voyez avec elle ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse avancer et peut-être essayer de sauver l'honneur de la presse française. Voilà, ça c'est le message que je veux faire,
cher Xavier,
vraiment passer ce soir, et moi, en attendant, je vais publier donc ma 4e saison qui va s'appeler « Le talentueux Monsieur Trogneux » et qui comprendra pas mal d'informations exclusives et qui permettra de faire un point complet sur tout ce qu'on sait. Alors, donc de la vraie vie de Brigitte.
Cher Xavier, on va passer à Amiens, on va parler d'Amiens, et j'ai pas mal de questions sur Amiens, mais avant ça, les petites annonces.
T'as pas de 100 francs ?
Si.
Lui, c'est Lucas, et il fait les mauvais choix.
Je te les rendrai.
Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous, on en fera bon usage, pas comme nos élites.
Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue.
On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.
Merci à vous d'être si nombreux, plus de 20 000 personnes. Dis-moi, cher Xavier, ah oui, n'oubliez pas évidemment de faire de Tipeee stream. Ben oui, on me fait des gestes là en régie. Ben oui, mais là, moi aussi j'ai chaud. Je suis en plein, extase, si je puis dire. Merci en tout cas de nous soutenir. Moi-même, je suis un peu là, je suis un peu déphasé, je t'avoue, cher Xavier. Question, est-ce que des gens d'Amiens parlent ? Est-ce qu'il y a des gens,
Des gens d'Amiens finissent par parler. Mais naturellement, des gens d'Amiens ne parlent pas. Mais c'est sûr que quand moi, je me mets à contacter 300 personnes, que Anison, elle retourne tout Amiens, eh ben, on finit par avoir des photos et des témoignages. Et comme je le dis, là, en termes d'exclusivité, Emmanuel Anison a récupéré 4 photos exclusives. Moi, j'ai récupéré 4 photos exclusives.
Donc, elle a les photos. Elle a les photos. Et tu as les photos. C'est ça?
Oui, bien sûr. Et ce sont des photos qui recoupent. Puisque, comme j'ai dit, moi, je suis pas un défiant. Je ne suis pas un théoricien du complot, je suis un journaliste qui me contente de faire du journalisme, je m'en fous en plus du journalisme, je fais ça parce que c'est un moment de ma vie, je ferai peut-être autre chose après, je m'en fous, mais pour l'instant il se trouve que je fais du journalisme et j'essaye de le faire mon métier normalement. Et mon métier, c'est de recouper et de rapporter l'information. Donc là, on a recoupé, et j'aurais bien aimé que Emmanuel Anison la rapporte pour que le dossier puisse passer effectivement dans le mainstream. Je comprends qu'elle l'ait pas fait parce que ça lui aurait entraîné un changement de vie. Ça veut dire que tu passes de Télérama à Edward Snowden, quoi. Voilà. Donc
mais elle te l'a dit pourquoi elle l'a pas fait?
Non. Elle a pas dit. On a eu un échange et voilà. Elle le raconte dans le livre. Je lui dis de pousser le dossier de par effectivement son statut de journaliste au Nouvel Observateur, etc. Et elle dit que ça l'a fait rigoler. Ça l'a pas fait tant rigoler que ça sur le coup. Mais voilà, elle a pas voulu perdre. Elle l'a pas fait. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'on avance et que en France on puisse être rationnel et faire du journalisme, c'est-à-dire, comme j'ai dit et je répète, recouper D'accord. et rapporter l'information sans prétention, sans chichi, etc. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut, après tout ce qu'on s'est dit, dire que l'administration, ben, elle a produit des faux documents ?
Non, moi je pense pas que l'administration ait produit de faux documents. Non, non. En fait, ce qui est, elle a produit des réponses qui étaient erronées dans un premier temps. Ensuite, ils ont accéléré la diffusion de documents. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Michel Trogneux donc se marie en 1980 avec Véronique Dreux. Or, ce document, selon la loi, n'est accessible à des tiers. C'est-à-dire le document, l'acte de mariage complet. Du mariage de Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux n'est disponible que 75 ans après par des tiers. Donc ça veut dire ce document sera disponible en 2055. Or, ce document a été fourni sur ordre de la mairie d'Amiens par la mairie de Blangy-Tronville à Jonathan Moadab en 2021. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Donc de temps en temps, ils ralentissent nettement la diffusion de documents et de temps en temps, ils l'accélèrent quand ça les arrange, en dehors de tout cadre légal d'ailleurs. C'est ça qui est très intéressant. Mm-hmm. Par ailleurs, il y a des documents qui disparaissent des archives. Ça, c'est vrai. C'est sourcé, c'est documenté. On a deux documents deux codes qui ont disparu des archives. Il me semble que c'est des archives de la Somme. On a eu une réponse une fois. On avait commandé un document relatif à Jean-Michel Trogneux. On nous a dit qu'ils avaient reçu l'ordre de le détruire. Enfin, voilà. Donc il y a quand même des choses bizarres, mais il n'y a pas de faux. Pour l'instant, moi, je peux pas dire qu'il y a eu des faux. Et d'ailleurs, Natacha Ray est poursuivie pour avoir dit qu'il y avait des faux. Et je le répète, quand elle a dit qu'il y avait des faux, elle était intégralement de bonne foi. Et les réponses de la mairie d'Amiens pouvait lui laisser penser qu'il y avait des faux. Et c'est pour ça que je dis que son procès en diffamation sur lequel se répand l'Élysée en disant « Oui, mais il y aura un procès en diffamation, faites attention, etc. » Natacha Ray peut le gagner. Et d'ailleurs, je pense qu'en vérité, elle a déjà gagné.
Bah, on espère qu'elle gagne. On est sincèrement avec elle. Est-ce qu'on a retrouvé des documents qui prouvent que M. Ozière a bien travaillé au Crédit du Nord ?
Non, ça c'était des erreurs. Alors là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème aussi avec des erreurs de journalistes. Il y avait un blackout autour d'André Ozière, donc il y a eu des erreurs de journalistes. Il n'avait pas été au Crédit du Nord. Il était banquier à la BFCE. Il a été D'accord. banquier. Ça, on a recoupé. C'est pareil. C'est des choses qu'on a pu recouper avec Emmanuel Anison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, j'avais identifié un groupe Facebook avec l'aide d'un groupe Telegram qui s'appelle l'affaire Jean-Michel Trogneux. L'affaire Jean-Michel Trogneux, donc c'est un groupe Telegram qui travaille sur l'affaire. Ils ont identifié qu'il y avait un groupe d'anciens de la BFCE. Ils ont voulu recouper ça. Moi, j'avais pas le temps de traiter ça parce que moi, je suis focus. J'étais focus sur Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Et donc, j'ai dit à Emmanuel Anison, j'ai trouvé ce groupe Facebook, etc. Elle les a contactés, elle a pu récupérer D'accord. d'autres photos d'André Ozière, ainsi que des témoignages qu'elle a publiés d'ailleurs dans son livre.
Ah bah, mais dis-moi, il y a un truc important.
Lisez le livre, à pas l'insulter sur les réseaux sociaux parce
bien
que
sûr, non,
ça serait pénible.
Bien sûr, évidemment, faut pas l'insulter.
Plutôt de l'encourager parce que des journalistes mainstream qu'on le courage d'aller aussi loin, hein, elle est allée aussi loin qu'elle a pu, qu'on le courage d'aller aussi loin. Et ben je dis qu'il y en a pas beaucoup qui sont aussi courageux.
Dis-moi, cher Xavier,
que Emmanuel Anison et j'incite plutôt que d'insulter bêtement dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitter, de plutôt la remercier et de l'encourager. Alors, et peut-être que ça suscitera des vocations chez ses confrères.
Cher Xavier, est-ce que, au niveau de la carte de sécurité sociale, voilà, on a tous des cartes de sécurité sociale. On a le 1 ou le 2 qui est en gros le genre de la personne. Est-ce que l'on sait par quel chiffre commence le numéro de sécurité sociale de Brigitte Macron.
Mais à partir du moment où je t'ai expliqué qu'elle vit avec l'identité civile de naissance de sa sœur, à part ça, tous les papiers sont en règle. Là, je te le dis. C'est-à-dire que tous les papiers sont en règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas...
D'accord.
C'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. C'est pour ça que la question... De qu'est-il advenu de Brigitte Trogneux Quel est le rôle de Brigitte Trogneux, de André Ozières dans ce qu'il est advenu de Brigitte Trogneux? C'est ça la clé, c'est ça la clé à terme du dossier. Et effectivement, quel a été le véritable passé de Jean-Michel Trogneux? Encore une fois, je te dis, on répond à toutes ces questions dans notre série à paraître, le talentueux Monsieur Trogneux. Donc voilà, j'ai fait passer, je pense, tous les messages importants.
J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as eu accès au doc officiel de Morad El Attab dont il parle que, voilà, que Jean-Michel Trogneux aurait vécu en 63 à Alger?
Oui, oui, ce document est absolument incontesté, incontestable. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en vérité, tout le monde sait dans l'appareil d'État que le Maghreb et l'Algérie en particulier font partie des prérogatives que s'est attribué Brigitte. Alors c'est complètement délirant. C'est pareil, on me dit oui, mais enfin c'est la femme du président. Comment vous pouvez faire ça? C'est la vie privée. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il suffit de lire la presse pour comprendre que Brigitte a la haute main sur des pans entiers de la vie politique française, sur le monde de la culture, sur la justice, puisque elle est derrière la reconduction systématique de Dupond-Moretti, hein, qui lui avait d'ailleurs plaidé lors d'un procès à Amiens l'incestereux Amiens avec son copain l'avocat de la rue sur lequel on reviendra donc dans notre prochaine saison du vrai visage d'Emmanuel Macron, donc on va pas tout spolier. Ouais. Voilà, donc il y a donc la justice, l'éducation nationale, la culture et au niveau des relations internationales, effectivement, le Maghreb en général et l'Algérie en particulier. Là, on a vu qu'il y a eu des graves problèmes avec le Maroc, hein, et des graves problèmes avec le Maroc où un média lié au IRA du Maroc fait des allusions à la transsexualité de Brigitte. Là, Macron ouvre la porte au Maroc et tente une tentative de rabibochage, ça passe par Brigitte et les sœurs du roi du Maroc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un site lié au renseignement algérien qui s'appelle Algérie Patriotique, qui dit Macron, président cocaïnomane, avec son épouse Jean-Michel Trogneux, lequel dirige secrètement la France sans avoir été élu. Alors là, on est sidéré. Donc là, ça confirme ce que je t'expliquais l'autre fois, c'est-à-dire effectivement ce problème de chantage et de pression dans les relations internationales, et effectivement quel est le lien profond entre Brigitte et le Maghreb. Voilà. Toutes ces questions auront des réponses et sont détaillées dans le talentueux Monsieur Trogneux, apparaître très très prochainement.
Tiens, j'ai une petite question un peu annexe. Tu as encore, j'imagine, tu as encore d'autres choses à révéler. Peut-être que tu n'as pas dit ce soir. Est-ce que tu as peut-être une petite conclusion?
Là, pour l'instant, je te dis, on garde aussi une forme de confidentialité. Tu vois, j'ai un peu ouvert quelques pistes. On va voir jusqu'où on est prêt à, on peut aller. Jusqu'où on peut aller. Je te dis, on boucle quelques pans du dossier et on voit aussi jusqu'où sont prêts à aller les Trumpistes. Moi, honnêtement, hein, dans un pays normal, il y aurait des groupes au sein de l'élite qui jugeraient que le maintien d'Emmanuel Macron dès à présent n'est déjà plus possible, mais visiblement il n'y a plus aucun garde-fou, comme l'a dit chez toi Hubert Marquis-Vraillance, hein, il y a plus aucun garde-fou, on ne sait pas comment tout ça est possible, donc il n'y a aucun garde-fou au niveau de la presse, aucun garde-fou au niveau du renseignement, aucun garde-fou au niveau de la classe politique, hein, tout le monde est le doigt sur la couture du pantalon sur tous les grands sujets essentiels. Donc on est une sorte de bateau ivre. La France est une sorte de bateau ivre, de canard sans tête. On va dans le mur. Et moi, voilà, j'appelle tous les gens de bonne volonté quand même à se réveiller. qui est le mien en particulier, celui de la presse. Voilà.
Écoute, merci à toi, cher Xavier Poussard. On retrouve faits et documents, évidemment, sur le site.
Voilà, faitsetdocuments.com, sur notre compte Twitter. Et puis, je vous dis, on republie sans doute à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a laissé passer un petit peu la grosse phase du buzz à laquelle on a évidemment beaucoup contribué, comme l'a rapporté d'ailleurs assez honnêtement Emmanuel Anison dans son livre, et on republie à partir effectivement de la semaine prochaine, donc à retrouver dès la semaine prochaine le talentueux monsieur Trogneux.
Ça veut dire que voilà, cette affaire n'est pas finie, elle va encore continuer, j'imagine, ça va être un peu long tout ça.
Il faut pousser si tu veux.
Il faut pousser, il faut y aller, mais on va continuer à pousser, c'est ça le truc, hein. Il faut continuer à pousser, voilà.
Voilà, il faut être persévérant.
Écoutez, je sais que certains dans le chat me disent « Ah oui, on n'a pas assez appris. » Écoutez, c'est une affaire d'État. C'est pas Colombo à une heure et demie. Quoi. Voilà, c'est pas aussi simple. Enfin, je pense, je sais pas, Xavier, je sais pas ce que t'en penses. Non ?
Bon, quand même, il y a sur Candace Owens. Ouais,
d'ailleurs, par exemple, je vais le dire en direct parce que je reçois aussi des messages, des textos. J'ai notre ami Gérard Camberlin, il me dit « Ah, mais j'ai plein de trucs à dire !» Il me dit « Ah, mais j'ai appelé Xavier et tout, j'ai plein de trucs à dire !» Je suis désolé, là, on n'est pas... enfin, voilà, quoi. Enfin, bon. Bref.
Bon, ben, en tout cas, de toute façon, on refait un live en fonction des prochains développements. Et puis, à suivre donc, Mike.
Merci à vous. Voilà, partagez à fond. Allez sur Faits et Documents. Soutenez Faits et Documents. Soutenez Xavier Poussard. Soutenez aussi la librairie Vincent. En tout cas, merci à vous d'avoir été si nombreux ce soir. Oui, voilà, on a avancé, tout n'est pas fini, c'est pas rien quand même. Déjà, derrière, il y a l'appareil d'État qui bloque des choses.
Regarde, quand on a fait le live en décembre, tu vois, on relance l'affaire à ce moment-là, et regarde où on en est aujourd'hui.
Mais oui.
C'est-à-dire que quand même, le but c'est de passer l'Atlantique, etc. Pour l'instant, on est bloqué sur Twitter France, etc. On est toujours d'ailleurs bloqué sur Twitter France. Et finalement, Macron a été poussé à bout. Il a surréagi sur TF1. Le livre d'Emmanuel Anison, Candace Owen, nous qui produisons la suite. Effectivement, donc, dossier à suivre et ne jamais oublier. Que c'est le seul truc qui les emmerde quand même, hein, parce que j'aime bien tous ceux qui font les grands sérieux avec des analyses selon lesquelles il y aurait d'autres sujets. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment agir sur les autres sujets, hein? Est-ce qu'on peut agir sur la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on peut agir sur Gaza? Est-ce qu'on peut agir sur cela? Ça, j'en sais rien. Moi, ça, ce que je sais, c'est que sur ce dossier-là, on peut agir et que ce dossier-là, ça les emmerde. Voilà.
En tout cas, voilà, on avance et on continuera. Certains, dans certains services, disent que en gros qu'ils ont tout effacé, mais en gros je pense pas qu'ils ont vraiment tout effacé, et donc il y a l'appareil d'État derrière, c'est pas simple. Même si Faits et Documents sont des enquêteurs qui bossent bien, les amis de Xavier Poussard et compagnie bossent très bien, ce n'est pas non plus la rédaction de TF1, ils sont pas 500 à bosser dessus. En tout cas, merci à toi, cher Xavier, tu prends d'énormes risques et vraiment je t'en suis excessivement reconnaissant. Passez, chers amis, une excellente soirée et à jeudi soir. Allez, salut, ciao.
Vous aimez Géopolitique Profonde ?
Yeah.
Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots ? Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité, cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit, et cela ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.